Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC.
Pas de fumée sans feu. Qu'on veuille nous fasse croire qu'il s'est rien passé.
8.9, 64, 63.
Moi, encore une fois, je le dis souvent, quand il fait beau, il fait beau. Quand il pleut, il pleut.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Bienvenue dans Génération After, comme tous les soirs, de 20h à 22h, du lundi au jeudi, avec autour de la table ce soir, Walid Acherchon. Salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Qui a passé une très bonne soirée hier, on va en parler. Oussem Le Saïef est avec nous également, salut Oussem.
Salut Nico, bonsoir tout le monde.
Et Sofiane Zouaoui, salut Sofiane.
Salut Nico, salut à toutes et à tous.
Sofiane du WFC. Messieurs, au programme de Génération After ce soir, jusqu'à 22h, le PSG peut-il surmonter la blessure de Kylian Mbappé, forfait pour les trois prochaines semaines, mois décisif pour le Paris Saint-Germain. On vous attend nombreux, supporters du PSG au 32-16 pour en débattre. Paulo Breitner, tiens, justement, sera avec nous aux alentours de 20h30 pour nous dire comment la nouvelle a été perçue en Allemagne. Pour parler du Bayern qui a battu Mayence 4-0 hier, enfin du mieux dans le jeu bavarois. Tout le monde est rassuré dans l'entourage du club du FC Bayern. 20h45, Oussem qui veut rendre un hommage appuyé à notre Ligue 1. Plus que jamais la Ligue des Talents, soyons fiers de notre football.
Exactement.
Tu égrèneras quelques noms qui t'enthousiasment. On en a vu hier soir sur les terrains notamment.
Et j'espère qu'on va continuer à les voir. Parce que le problème de la Ligue des Talents, c'est que tu les perds vite.
Mais si tu poses 40 millions, c'est terminé. Hein.
Eh oui. J'espère pas.
Eh oui, si un Wolverhampton pose 40 millions, Désiré Doué.
J'espère pas.
Non, je pense pas.
On parle pas de malheur.
21h, l'OM est-il désormais dans l'obligation de faire top 2 cette saison? Série d'invincibilité en cours. Approfondi grâce à ce marché d'hiver. On écoutera notamment Pablo Longoria. Et puis à 21h30, Raphaël Varane arrête donc l'équipe de France. Il arrête les Bleus, va-t-il vraiment leur manquer? Question un peu provoque. Évidemment. Le débat a déjà été fait à la rédaction tout à l'heure.
Ouais.
Ça a été chaud. C'était violent.
Mais pas d'accord.
Pas que verbalement. On va en débattre, bien
pas
sûr.
Que verbalement.
Et puis à 21h30, l'avis de Sofiane, l'avis tacticien.
Ouais.
Attention, là, la table noire,
la grille, la tactique au fumier.
Là, c'est Sofiane Steele ou Régis Zouaoui.
J'essaye de me placer, voir s'il y a d'autres opportunités.
Ouais. Son avis intitulé
journaliste.
Ou Sofiane Blanc. En général, c'est bon. Moi, le terrain, moi.
Le système à 3 favorise les bons matchs de Ligue 1. Le spectacle, on peut le dire.
Ouais, c'est ça, le spectacle.
Bon, il y a plein d'avis qui peuvent tuer ton avis, je pense. On verra ça.
T'inquiète pas.
Il est courageux à chaque fois, il vient avec un avis, tu sais, un peu audacieux, mais j'aime bien.
Un avis de merde à chaque fois.
Tu peux le dire ainsi, tu peux le dire ainsi.
Ce sont tes mots.
Ça t'a pas
courage,
Et puis à 22h, les gars, Gilbert Bribois pour une émission, un after événement, un after inédit. On ne peut rien dire pour le moment. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas avec nous au studio ce soir.
C'est du très lourd.
Mais il sera dans un lieu très insolite.
Ah oui.
Avec Daniel, notamment. Coach sera là également. Manu Petit sera là également, car c'est un
dans
événement important. Dans l'after,
ah ouais,
des 22h.
C'est la grosse soirée, ça.
J'en dis pas plus. Hein. Ils ne sont pas au cercle d'hiver. Ils sont pas.
Non. Moi, je n'ai jamais entendu ça.
Voilà. Ce sera à 22h. On n'en fait pas trop. Hein.
Non, vraiment.
On n'est pas en train de survendre le 22h minuit l'after.
J'ai jamais entendu ça en France.
C'est vraiment dingue.
Je pense que c'est la première émission de foot qui fait ça.
Ouais.
C'est parti.
C'est inédit.
Pour Génération After, RMC 20h03. On commence par le Paris Saint-Germain. Peut-il surmonter la blessure de Mbappé? Je rappelle les informations d'abord. Gros coup dur pour ce PSG-là. Mbappé blessé, lésion musculaire de la cuisse gauche. 3 semaines estimées d'absence. Il va donc manquer Toulouse en Ligue 1, Marseille en Coupe de France, le Bayern en Ligue des Champions, match aller, Lille en Ligue 1. Doute, bien sûr, pour le déplacement à Marseille, encore une fois en Ligue 1, le 26 février, puisqu'il devrait pouvoir reprendre, en tout cas, à la fin de, enfin, à la fin, 23 février, pour être prêt éventuellement pour aller au Vélodrome. Je rappelle qu'il y a 3 semaines également entre le 8e aller de Ligue des Champions face au Bayern et le 8e de finale retour. Peut-il donc surmonter ce PSG-là, la blessure de Kylian Mbappé? Vous nous appelez, supporters parisiens, au 32-16. Commençons, allez, au hasard, avec Oussem.
Je suis pas sûr que je sois la bonne personne avec qui commencer parce que je suis contre cet avis-là.
Alors,
contre ta question. Alors, je pense que vaut mieux laisser la main aux personnes qui pensent que le PSG sans Mbappé n'existe plus.
Je ne sais pas s'il existe plus, mais en tout cas, on avait fait la semaine dernière un débat sur le mois de tous les dangers pour le Paris Saint-Germain. Le commencer ou l'entamer sans qu'il ait Mbappé, qui a été voilà ton meilleur joueur l'année dernière, qui sort d'une Coupe du Monde extraordinaire avec l'équipe de France. Bien évidemment que c'est inquiétant, très inquiétant. Surtout que au-delà de la qualité de Kylian Mbappé, moi ce qui m'inquiète c'est surtout son profil. Cette capacité à aller chercher la profondeur, de pouvoir emmener les défenses avec des appels incessants, ou cette qualité de conduite de balle. On va pas présenter Kylian Mbappé ce soir, mais je trouve qu'il n'y a pas ce profil-là dans l'effectif parisien, et il va falloir que Christophe Galtier trouve autre chose. Il va falloir que on ait un Christophe Galtier créatif, et je suis pas sûr que aujourd'hui Galtier en soit capable. En tout cas, il nous l'a pas montré sur les dernières semaines. Peut-être qu'il va s'inventer ou avec son staff. Ils vont être obligés de créer des choses. Donc moi j'attends de voir, mais je reste quand même pessimiste. J'étais déjà pessimiste pour le Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé. Je vais être cohérent avec moi-même. Ça me rajoute beaucoup d'inquiétude.
Le PSG, la perte de Kylian Mbappé est un coup dur à coup sûr. Mais je pense que le PSG, pour répondre à la question initiale, oui, le PSG peut se relever avec l'absence de Kylian Mbappé. Je suis totalement d'accord avec toi. Il apporte une profondeur qui n'existe pas au Paris Saint-Germain. Je compte pas sur le coach Galtier pour qu'il mette un système en place inédit. Mais je pense que certaines individualités, comme ça a toujours été le cas au Paris Saint-Germain, c'est les individualités qui font la différence. Je pense que certaines individualités peuvent être et doivent être au rendez-vous. Je pense notamment à Lionel Messi, je pense à Neymar. Je dis pas que l'absence de Mbappé va les libérer, parce que ça c'est un discours de football amateur. Ils ont pas besoin de l'absence de Kylian Mbappé pour être libérés, mais je pense qu'au contraire prendre leurs responsabilités sera demandé à ce moment-là, et je pense qu'ils peuvent y répondre, même si depuis quelques semaines ils sont pas très bons, même si je suis d'accord avec toi, c'est plutôt une ambiance de pessimisme qu'il y a autour du Paris Saint-Germain. Mais je pense sincèrement que les grands joueurs peuvent être au rendez-vous dans ce type de rendez-vous-là.
Mais le problème, Oussem, c'est qu'en plus de la blessure de Kylian Mbappé, on a un Neymar où la cheville est fragilisée.
On a un qui est au PSG. Hein,
on a un Neymar qui est sorti éreinté de son match contre Reims et qui n'a pas joué contre Montpellier notamment.
Mais il y a les suppléments d'âme, ce type de match.
Enfin, oui, peut-être.
T'as un supplément d'âme sur ces joueurs-là. Je ne dis pas que tu vas avoir Lionel Messi qui va faire 15 km, c'est pas vrai. Mais tu vas avoir quelque chose de plus. Et puis après, peut-être que le coach Galtier va essayer de refaire ce qu'il a fait en début de saison, remettre une défense à 3, fermer un peu plus pour laisser la liberté à ces deux hommes-là dont je parlais avec Messi et Neymar. Et peut-être que la solution viendra d'eux. Je dis pas que ça va.
Il y a beaucoup de peut-être quand même.
Je dis pas que ça va absolument venir, mais je pense que ces joueurs-là peuvent suppléer Kylian Mbappé sur un rendez-vous comme ça, un match aller-retour.
Le problème, les gars, c'est qu'en fait, on est en train de se focaliser sur ce qui va se passer face au Bayern, puisque quand on a appris la blessure de Kylian Mbappé, on a réfléchi au timing par rapport au match du Bayern. Le truc, c'est qu'on est dans une saison et dans une séquence de saison où tu vas jouer Toulouse. Tu vas jouer, qui est une bonne équipe à domicile.
Et
t'as vu que sur les derniers matchs à domicile, dont au Parc des Princes, tu avais des difficultés contre Angers, contre Strasbourg, contre Reims. Tu vas jouer Monaco, le dernier match. Et j'ai oublié entre les deux, bien sûr, le match peut-être le plus important de cette séquence-là, symboliquement, c'est le match de coupe face à l'Olympique de Marseille.
Il y a Lille aussi.
Et il y a Lille aussi. Donc, en fait, au-delà de simplement cette blessure d'Mbappé et de ce qui va se passer en Ligue des Champions, c'est qu'il faut repréciser peut-être que tu n'as aucune marge ou très peu de marge en championnat et que tu joues un match de coupe symboliquement très, très important. Et sans lui, on a vu qu'il y avait déjà des difficultés. Déjà, avec lui, il y a des difficultés dans les matchs de Ligue 1. Sans lui.
Oui, voilà. Contre Strasbourg, contre
Rennes, on l'a vu un petit peu sur le match. Il était un tout petit peu présent. Il y a eu des fêtes aussi. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, vraiment, il n'y a pas de volonté de faire du catastrophisme plus que de raison. Mais c'est juste c'est juste une évidence. Tu perds ton meilleur joueur à quelques jours d'un match décisif dans ta saison où tu auras très peu de possibilités de te relever tactiquement et de préparer quelque chose sans lui, d'autant plus que sur la séquence tu joues des rencontres importantes et décisives et très importantes face à des équipes avec un bon niveau. Donc je vois pas une autre situation plus grave que celle-là.
Non, mais si on n'est pas alarmé ce soir, je sais pas quand est-ce qu'on sera alarmé pour le Paris Saint-Germain. On a parlé de processus qui n'existait plus en 2023. Le collectif, le contenu, c'est très très compliqué à chaque match. On a expliqué que dans les gros rendez-vous notamment, cette équipe du Paris Saint-Germain devait se remettre uniquement à ses individualités.
Mais comme ça a toujours été le cas.
Oui, tu as perdu l'individualité, la menace la plus forte du Paris Saint-Germain. Derrière, on a un Lionel Messi qui n'est pas revenu en 2023 avec la plus grande forme. On a un Neymar, je répète, parce que Neymar a fait plutôt un bon match. C'était pour moi le meilleur contre Reims notamment, le plus actif, le plus disponible. Il y avait des grosses inquiétudes sur lui, sur sa blessure avant, parce que apparemment il a forcé contre Angers notamment et même contre Strasbourg. Donc il y a déjà cette incertitude physique sur Neymar et il y a le banc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de recrutement. Déjà, quand il y avait Kylian Mbappé, on se disait dans la lutte contre le Bayern, quand tu vas avoir des Leroy Sané qui peuvent rentrer, Thomas Müller, Moussiala, etc., Niabri, etc. Du côté du PSG, eh ben déjà avec Sarabia, on se posait cette question. Entre temps, t'as perdu Sarabia, t'as remplacé personne et tu perds Mbappé. Donc, sincèrement, on parle souvent d'alignement de planètes quand c'est positif. Là, j'ai l'impression que c'est le contraire pour le Paris Saint-Germain.
Mais là, peut-être ce sera pas le débat de ce soir, mais moi j'ai directement pensé à comment le remplacer sur le match.
Si, on va le faire. On va le faire dans un instant. Débat, bien sûr.
Et Nico, juste pour terminer, avant de faire ça, parce qu'il faut quand même parler, parce que comme d'habitude avec le PSG, c'est de la faute à pas de chance, etc. Mais de la gestion autour du cas d'Mbappé, voilà. On en a pas parlé.
Mais autour de tous les joueurs.
Mais oui, de tous les jours, mais Mbappé,
tu veux que je rappelle un peu les faits ou pas?
Oui, si tu veux.
3 jours après son retour de Doha, du mondial.
De sa volonté.
Aller-retour à New York dans la foulée. Voyage promotionnel du PSG en Arabie Saoudite, il en était évidemment. Enchaînement de matchs en Ligue 1. Coupe de France, Pays de Cassel, il joue tout le match, il met un quintuplé, on s'en souvient. Et voilà. Alors, de là faire un lien entre.
Tu peux rajouter Marrakech
dans
ses vacances aussi.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le PSG n'a pas tout fait pour éviter une éventuelle blessure. De là faire un lien entre cet enchaînement-là, ça peut paraître un petit peu étrange, hein, avant un mois de février aussi important. C'est pas évident de le faire. Tu vois, je lisais notamment les propos de Jean-Pierre Paclet, ancien médecin de l'équipe de France. Je me convoque d'Eurosport qui disait c'est un facteur favorisant, effectivement, mais pas déclenchant. Il aurait très bien pu faire le même programme et passer à travers les gouttes.
C'est certain, pas ça le sujet. Passé...
Bah, Hakimi a fait presque le même programme, oui, et pourtant il n'est pas blessé.
C'est pas ça le sujet. C'est moi ce qui me dérange. Et après, je te laisse terminer, Oussem, c'est que quand on prend la chronologie des faits, bien évidemment qu'on a tous salué Kylian Mbappé quand il est revenu. Professionnalisme, incroyable, on va pas être hypocrite, on va être malhonnête. Maintenant, le gros problème, c'est quoi? C'est que quand tu vois la gestion du club, on en revient là, déplacement en Arabie Saoudite qui ne sert à rien sportivement, hein, où les déplacements, on sait très bien, pour les joueurs de foot, ça... use de l'énergie. Après une Coupe du Monde où mentalement ça a été très compliqué à la fin pour Kylian Mbappé, tu rajoutes Pays de Cassel. Au Pays de Cassel, je vous le rappelle, donc c'était une R1, il y avait 4-0 à la mi-temps. 4-0 à la mi-temps, Kylian Mbappé a fait 90 minutes. 90 minutes pour faire quoi? Pour faire des stats, pour qu'il nous explique
ça. Pour qu'on nous montre
que Kylian Mbappé a le niveau contre le Pays de Cassel.
Non,
moi j'aimerais
pas. C'est pas ça qu'on veut montrer, Walid. Mais le football a changé.
Et bah ça me dérange. Début parce que c'était le soir parfait pour.
Nico, on peut le déplorer ça.
Bien sûr. Mais ça veut dire aussi que Mbappé est aussi responsable que Galtier.
Exactement. Je ne l'exonère pas.
Galtier, encore une fois, on en revient au même débat.
Je ne l'exonère pas.
Il n'y a pas suffisamment d'autorité pour dire non, Kylian, à la 55e, plus ça.
Mais entre Kylian Mbappé qui décide de faire ses stats ou d'aller chercher Cavani, aucun problème là-dessus. Mais tu as un capitaine à bord. Tu as normalement un entraîneur qui te dit non, Kylian.
On revient toujours au même problème.
Tu vas rester peut-être un an l'an prochain. Le record de Cavani, mais tu vas le battre. Nous, la priorité, c'est ce mois-là. Et il faut te préserver mentalement, physiquement, techniquement. Et le Pays de Cassel, on n'a pas besoin d'une deuxième mi-temps contre le Pays de Cassel. Et aujourd'hui, je ne dis pas que, bien évidemment, que s'il était sorti à la mi-temps, que Kylian Mbappé ne serait pas blessé contre Montpellier. Mais je trouve que la gestion du club Paris Saint-Germain, à chaque fois, c'est la même chose. Et là, aujourd'hui, on a Kylian Mbappé, ta plus grande arme, qui a enchaîné les matchs, qui a fait une espèce de « je reviens tout de suite, après 10 jours, après je vais en Arabie Saoudite, après je joue 90 minutes contre Pays de Cassel », et ben tu arrives à une blessure. Et moi, je trouve que tu aurais pu quand même mieux gérer, du cas d'Mbappé ou du cas du club.
Sur la séquence là que tu dis, il ne joue pas le match contre Angers, il ne joue pas le match contre Châteauroux en coupe.
Non, je te parle après, moi, quand il revient. Il va en Arabie Saoudite.
Oui.
Donc ça, c'est le club encore une fois.
Il n'a pas le choix. Voilà. Mais non, c'est contractuel.
Mais je ne parle pas de Mbappé. Je parle du club.
Mais non, mais même du club. Prenons sur son retour de Coupe du Monde, parce que j'ai les stats devant les yeux.
Ouais.
Angers, il ne joue pas. Il joue 35 minutes contre Rennes. Contre Châteauroux.
Oui, son... d'accord. Mais oui. Il joue 90 minutes contre Lens. Oui, il joue 90 minutes contre Strasbourg.
Non, d'accord. Mais dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu le mets dans un frigo pendant 3 semaines?
Moi, je te dis que le passage Arabie Saoudite, déplacement, plus 90 minutes Pays de Cassel.
Après, il y a 22 joueurs dans le groupe et c'est le seul à se blesser,
Et la troisième des choses, c'est que si on veut aller dans ton sens, il n'y a aucun souci. Mais tu peux rajouter le recrutement qui n'existe pas. Oui, donc, ça, donc comment un club du niveau du Paris Saint-Germain peut se dire qu'il y a trois joueurs qui ont fait la Coupe du Monde avec tout ce que ça comporte et on ne va pas remplacer, au-delà de Sarabia,
donc deux jusqu'au bout et un qui se pète.
Donc deux jusqu'au bout et un qui se pète. On se dit pas, bah, peut-être qu'à un moment donné, le joueur de haut niveau, les joueurs de haut niveau,
j'entends ton argument de la gestion sur l'accumulation des matchs et la profondeur de banc inexistante. J'entends ton argument. J'entends quand tu dis, ça a été mal géré ou peu anticipé, ce que tu veux. Par contre, sur le rapport gestion blessure, comme te disait Sofiane, ça aurait pu arriver comme ça aurait pu ne pas arriver.
Bien sûr, mais ça arrive. Et avec le PSG, ça arrive souvent.
Pour revenir à la question initiale de Nico, qui était est-ce que le PSG peut se relever, je pense et j'espère même qu'ils ont les capacités, même avec cette mauvaise gestion que tu as mise en lumière. J'espère qu'ils vont réussir quand même à se relever parce que il y a quand même des armes très fortes au Paris Saint-Germain. Alors oui, comme tu dis, c'est pas le Messi d'avant la Coupe du Monde. Oui, c'est pas le Neymar d'avant la Coupe du Monde. Mais je suis désolé, je suis pas un footballeur professionnel, mais moi, dans toutes les discussions que j'ai eues avec des footballeurs professionnels qui ont joué des matchs de très haut niveau à ce moment-là. Alors Daniel Riolo, qui a une expression qui parle souvent de l'interrupteur, moi j'aime pas trop cette expression, mais c'est ça l'idée, c'est qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui les stimule. Alors oui, il y a un calendrier où peut-être qu'il va y avoir de la casse, peut-être qu'il y a des matchs de Ligue 1 qui vont passer à la trappe.
D'ailleurs, les coachs et les joueurs subissent ce calendrier. Il faut quand même le préciser qu'ils sont pas responsables
c'est un
de
calendrier
ça aussi.
Exactement.
Ouais, sortir de Coupe du Monde et aller faire des matchs directement en coupe, en championnat. Ouais,
le PSG
aussi,
en
c'est
rajoute,
très très marrant.
Le PSG en rajoute.
Les gars, on fait une pause.
Le PSG rajoute des matchs.
Dans un instant, on va parler comment le PSG doit jouer face au Bayern sans Kylian Mbappé. Comment restructurer ce 11 de départ. On va en débattre avec notamment Sabri qui nous a appelé au 32-16. Il arrive dans quelques secondes. Vous écoutez Génération After sur RMC, les 20h16, avec Oussem Loussaïef, Walid Acharchour et Sofiane Zouaoui. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Walid Acharchour, Sofiane Zouaoui et Oussem Loussaïef, Génération After, 20h18. Restez avec nous. Tout à l'heure, on parlera de Marseille également. On parlera également de la retraite internationale de Raphaël Varane. Également la contre-attaque de Noël Le Graët via ses avocats aujourd'hui, après le pré-audit publié, celui diligenté par le ministère des Sports. Il est en colère, Noël Le Graët.
Ah,
voilà. On en parlera tout à l'heure, vous réagirez également, les gars, il n'y a pas de problème.
Je reçois plein de messages sur.
Concernant quoi ?
Ce qui va se passer à 22h.
Normal.
On te demande ?
On est intrigué ?
Ouais, on est intrigué.
Ah, mais on ne le dira pas.
C'est des lourds.
Voilà. Ouais. On a le droit de rien dire. Voilà. Très clair.
On dira.
Ne garde pas le secret comme ça.
On dira à 21h59.
On n'a pas le droit. C'est tellement un truc de fou qu'on n'a pas le droit de le dire.
À 21h59, on pourra lâcher un petit indice.
Non.
Même pas.
Non.
Il faut la surprise.
Nico,
il faut le bonsoir à tous, bienvenue. Ah, tu vois.
Et là, bam.
C'est ça qu'il faut.
Grosse émission. Les gars, j'accueille Sabri au 32-16. Sabri, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Salut, Sabri. Heureux d'accueillir Sabri. Tu as 15 ans, c'est bien ça?
C'est ça.
Magnifique.
Super,
tu es même pré-génération after, c'est-à-dire que tu es.
Bah, tu peux écrire le concept.
Next génération after.
Tu peux écrire le concept.
Ouais, c'est ça.
Bonsoir Sabri, supporter du PSG, bien sûr. Alors, comment tu réagis quand tu apprends aujourd'hui que Mbappé va louper une bonne partie du mois de février, notamment ce 8e de finale contre le Bayern?
C'était pas une réaction attendue, mais on va dire que c'est une réaction que j'attendais. C'est depuis qu'il a failli partir au Real cet été, j'attendais de voir une situation de crise avec Kylian Mbappé pour voir comment le club pouvait se relever. Il y avait deux options. Soit on arrive à trouver un remplaçant, ou alors on fait rentrer les Titi qui peuvent se montrer décisifs dans la rotation, soit c'est un hécatombe et on sombre. Donc là, cette situation qu'il y a maintenant, ça va vraiment révéler le PSG sans Kylian Mbappé, et donc le PSG si Kylian Mbappé venait à partir.
Voilà, c'est un avis de Sabri, non, savoir ce que ce PSG a dans le ventre sans Kylian Mbappé. Bon, je pense que on n'a pas envie de voir hein, côté parisien ce que ce PSG-là a dans le ventre sans Kylian Mbappé.
Aujourd'hui, il y a quand même des objectifs majeurs, et Sofiane l'a répété, il n'y a pas que la Ligue des Champions.
Oui.
Il y a la Coupe
c'est
de France.
Le pire moment.
Galtier a expliqué que la Coupe de France était un très gros objectif cette saison pour le PSG et qu'il voulait gagner tous les titres. Il y a la
course. Après, c'est une question de vocabulaire, gros objectif.
Je pense que ça ferait vraiment tâche pour Galtier s'il se fait sortir par l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Surtout que l'année dernière, il faut pas l'oublier, mais Pochettino n'a pas gagné la Coupe de France et c'est Nantes qui l'avait remporté. Donc ça voudrait dire que deux fois de suite, le PSG
Pas le triplé.
Sur un contexte de début 2023 catastrophique en termes de résultats et de communication. Ça faut le repréciser aussi. Parce que la com de Galtier hier sur la blessure d'Mbappé, elle est aussi marrante.
Et ensuite.
Pourquoi?
Ne nouvelle boulette. Parce qu'à la sortie du match, il dit en gros, ça me paraît pas très grave.
Enfin, alors que. Sur les chaînes, je dois éviter.
Même en plus, à chaud,
c'est très compliqué. Tu dois prendre des pincettes. Même si tu te veux positif, tu dis on verra. Moi, j'ai jamais entendu un coach au sortir d'un joueur qui boite à ce point-là dire bon, ça va,
après,
on va voir.
Après, pour prendre la défense de Galtier, et c'est pas parce qu'on m'a demandé de prendre la défense de Galtier, mais sur un coup comme ça, Sofiane, et tu le sais aussi, il a juste une phrase du doc. Le doc lui dit non, mais je pense que c'est pas très grave.
Ah, même le doc, lui, il doit pas lui dire.
Ouais, c'est ça. Non, mais ça se passe très souvent comme ça. Lui, il y va, il doit faire son bord
de terrain. Et il aussi, ça suit la petite déclasse sur Kimpembe, tu sais, le vice-capitana.
Oui, oui, oui. Ça, c'est de la maladresse, je suis d'accord.
T'as les résultats sportifs. Moi, je dis attention, parce que là, on parle comme si c'était que de la coupe. Mais c'est la coupe et c'est l'OM. Tu peux pas te permettre de perdre ce match-là.
Et au-delà de la coupe, il y a aussi la Ligue 1.
Oui, mais évidemment.
T'es pas si à l'aise.
T'inquiète pas, Toulouse, après-demain, ça va pas être si simple.
T'es pas à l'abri sans Mbappé. Et quand on parle de la rotation, des changements, des joueurs qui vont rentrer, des joueurs qui vont remplacer Kylian Mbappé, comment Galtier va articuler son équipe, est-ce qu'il va avoir un changement de système? Là, je vois beaucoup sur Twitter, ou même il y a plein de compositions d'équipe. Comment j'ai pas l'impression.
Bah tiens, justement, on en
parlera après, mais j'ai pas l'impression que moi, Christophe Galtier, va tout changer ou peut tout changer.
3-4-1-2,
ce qu'il vient de dire. Et surtout, juste pour Sabri, je te laisse préparer ta composition idéale face au Bayern en 8ème.
Et la dernière des choses, on en parlera tout à l'heure avec Paulo Breitner, c'est qu'il faut pas oublier que les équipes qui rencontrent le Paris Saint-Germain sont traumatisées par ce que peut faire Kylian Mbappé. Et moi, je me rappelle,
oui, sur chaque appel,
je me rappelle de la demi-finale de Ligue des Champions contre Leipzig, qui avait un coach. Je crois que c'est le même coach que le Bayern aujourd'hui,
qui avait
complètement déjoué et qui avait dit. Oui. La menace Kylian Mbappé et ce que peut faire Kylian Mbappé dans le dos des défenseurs du Bayern, c'est à prendre en considération dans ce que je dois faire sur le terrain.
C'est un conflit qui s'adapte en mettant Kimmich aussi.
Et on avait vu un Leipzig très très différent entre l'Atlético Madrid en quart de finale et la demi-finale contre le PSG. Et donc je crois qu'on se rend pas compte que psychologiquement, même dans l'approche du match, ça change tout.
Mais même avec l'équipe de France,
même chez l'adversaire, parce qu'ils vont avoir un soulagement en se disant bon, même si on joue très très haut, de toute façon, qui va prendre la profondeur?
Il a la capacité.
Hakimi va être obligé de défendre, et Messi et Neymar vont demander le ballon dans les pieds, et Kitike va demander le ballon dans les pieds, ou si c'est un autre joueur. Donc
ta
ça,
profondeur, elle viendra que de
ça. Il faut pas oublier que même si Kylian Mbappé pouvait faire des matchs moyens, parce que ça lui est déjà arrivé, sa présence.
Bien sûr,
tellement
on s'en est rendu compte même en Coupe du Monde, Nico, face à l'Angleterre, face à l'Argentine, ne serait-ce que sa présence sur le terrain, notamment moi ça m'avait marqué depuis les tribunes face à l'Angleterre, ne serait-ce que par sa présence, il attire l'attention de 2-3 joueurs, ne serait-ce que ça. Et c'est vrai qu'avec le Paris Saint-Germain, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut parler de tactique ou pas?
Attends, on va y aller. Précision également, ce que nous dit nos camarades de l'équipe, en revanche pour Sergio Ramos, vous prenez comme vous voulez l'information, il devrait postuler une place titulaire contre le Bayern. Voilà, c'est pas si grave que prévu.
Je sais pas si c'est une bonne nouvelle.
Voilà, pour Sergio Ramos très complet. Et pour finir rapidement sur les infos satellites autour du PSG, Marco Verratti connaît sa suspension après son rouge face à Reims. Ouais. 3 matchs, dont un avec sursis, ce qui veut dire qu'il a purgé hier un premier match, il va purger Toulouse et il sera là, a priori, pour le match contre Marseille.
Et pour être complet, Kimpembe a aussi
repris l'entraînement collectif aujourd'hui. Sabri, on parle tactique avec toi également. Comment tu imagines ce 11 parisien contre le FC Bayern le 8 février prochain?
Alors, déjà, j'aimerais bien voir une défense à 3 avec Donnarumma au but, ça c'est indiscutable. 14, mais une défense à 3 avec Marquinhos, Kimpembe, et Danilo, parce que cette année, il n'est même pas défenseur central et c'est le seul qui fait le travail en défense centrale. Après, les latéraux, sans surprise, c'est Hakimi et Nuno Mendes. Au milieu, Verratti, Vitinha, mais même ça ne fait pas plaisir de le voir là et on aimerait vraiment voir quelqu'un d'autre, Fabian Ruiz. Et devant Messi, Neymar. Mais c'est pas une compo qui fait rêver. T'as 3 défenseurs centrales, t'en as un qui est même pas défenseur de métier. Ton milieu de terrain, c'était capitaine à Naples, c'était on le recrutait, on se disait c'est la classe. Même en début de saison, tout le monde disait Verratti, Vitinha, Ruiz, c'est un beau milieu pour le Paris Saint-Germain.
Capitaine à Naples?
Il n'était pas capitaine à Naples?
Non.
Genre important.
Insigné, Koulibaly était capitaine.
En tout cas, élément important de
l'équipe. Oui, titulaire.
Solaire était à Valence, c'était capitaine d'ailleurs.
Ouais.
Mais sur la composition de Sabri, c'est marrant parce que je voulais qu'on en parle de ce changement de dispositif. Je trouve que c'est tu peux difficilement faire mieux, je crois. Non, mais c'est vrai parce qu'elle me convainc pas du tout. Et pourtant, je pense qu'un passage à trois, ça me semble nécessaire parce que en face, tu auras une opposition qui a recruté, je rappelle quand même, Cancelo, qui va être un joueur, s'il est titulaire, je pense qu'il le sera, qui va s'incorporer dans le milieu de terrain en tant que latéral, milieu de terrain. Ouais. Tu vas avoir une grosse densité au milieu de terrain. Je ne crois pas du tout au losange qui, en soi-disant losange, hein, qui a été mis en place sur les derniers matchs, parce que tu peux pas laisser les côtés comme ça du côté du PSG face à ce Bayern là. J'ai du mal à croire à une forme de 4-3-3 parce que Neymar, Messi, comment tu les positionnes dans ce dispositif là. Le retour au 3-5-2, même s'il a pas été tout le temps, ou 3-4-3 comme vous voulez, il a pas tout le temps été convaincant, mais il me paraît être le meilleur dispositif comme ça là sur le papier pour faire face à ce que le Bayern te propose et pour surtout mettre Messi et Neymar dans un système un peu central.
Assez proche, oui.
Mais je te dis, là, je regarde ta composition, Sabri, et moi, j'aurais fait à peu près la même que toi.
T'aurais mis Danilo derrière aussi?
Oui, j'aurais mis Danilo derrière, oui. Mais je me dis, mais qui va prendre la profondeur dans cet effectif, hormis les pistons?
Ouais, voilà. C'est la seule solution, en fait. C'est en ça que le 3-4-1-2, parce que moi, je pense que.
Et Kitiki, il peut la prendre.
Je pense que. Non, mais je pense que.
Tu peux pas le mettre dans ce dispositif.
Je pense que ta meilleure combinaison, c'est le 3-4-1-2, parce que, comme le disait Sofiane, tes contre-attaquants seront les pistons et sont les seuls qui peuvent apporter de la profondeur. Et puis, quand tu as des joueurs comme Messi et Neymar qui se connaissent très bien, vaut mieux qu'ils soient le plus proche possible du terrain. Par contre, moi, à la différence de Sabri, j'aurais quand même mis Ramos derrière et Danilo, je l'aurais mis au milieu de terrain. J'aurais joué un milieu de terrain avec Danilo, Verratti, Vitinha, et quitte à ce que Vitinha, Verratti choisissent entre les deux qui va jouer le plus haut des deux. Mais je pense qu'on a besoin de Danilo dans l'équilibre du milieu de terrain, surtout quand tu vas avoir un match où tu vas demander à tes pistons de beaucoup, beaucoup monter.
Bon, en tout cas, grosse pression sur le PSG, sur Christophe Galtier. Dans trois semaines, s'il faut Galtier, on sait que c'est terminé presque.
Hein. Mais il restera jusqu'à la fin.
Si jamais, je ne souhaite pas le pire, hein, il sort en Coupe de France, il se vautre au Parc contre le Bayern. Voilà. Bon.
Et je pense que même s'il se vautre au Parc contre le Bayern,
on n'en est pas là, bien sûr.
Ça peut commencer à devenir très très compliqué.
Et c'est bien le 14 février, le 8e de finale à la Ligue des Champions.
Le Français qui a gagné avec des champions avec le Real, il a joué ou pas?
Non, il est au Fort Paddle 2.
Ok.
D'accord.
Il est disponible. Ouais,
d'accord.
Il est au Z5, je pense.
Ça vous fait rêver, forcément, Zidane à Paris.
Bah, quand tu regardes la liste de ceux qui sont encore libres.
Ah non, moi ça me fait pas rêver du tout. Hein. Je vais te le dire sincèrement. Non. Symboliquement, non. Désolé. Que les supporters parisiens m'en veuillent ou pas, moi je veux pas Zizou.
Je suis pas sûr que les supporters parisiens en rêvent tous non plus. Ouais, hein, Zidane à Paris.
On veut pas en rêver, mais
il est dans de fantasme.
Il est un peu populaire.
Non, mais ce qui serait cocasse.
Il a un peu de temps.
Ce qui serait cocasse, c'est que Zidane vienne au Paris Saint-Germain l'année prochaine, alors que Nasser El Khelaïfi nous a expliqué il y a 6 mois que Galtier c'était le bon choix.
Mais toi, qu'est-ce qui te dérange, Sofiane? C'est parce qu'il joue pas à 3 derrière. C'est parce qu'il joue pas à 3 derrière.
Non, pas du tout. C'est que pour moi, Zidane, c'est une représentation globale de la France et je veux pas qu'il soit juste à Paris Saint-Germain. Tout simplement.
Je vais remercier Sabri. Sabri, bravo. 15 ans. Très belle intervention.
Merci Sabri.
Bravo Sabri.
Merci à vous.
Dis-moi, t'es un modèle dans le métier, dans le journalisme ou pas? Parce qu'apparemment, tu veux être journaliste, hein?
Ouais, c'est ça. Bah, Daniel, j'aime bien quand tu prends ses coups de gueule.
On a dit journaliste, toi. Vas-y, Sabri.
J'aime bien Daniel. Il sait poser des coups de gueule assez osés. Au bon moment, ça, j'aime beaucoup.
Ton modèle est Daniel Riolo. Bon,
ils veulent tous être
pour discuter, en débattre.
Tu vas en école de journalisme, ils veulent tous être Daniel, Nico.
Ils veulent être journaliste, ils veulent être Daniel.
C'est ça.
On est là pour t'accompagner, Sabri.
Quel drame, quand même. c'est un métier. Merci, Sabri. Bonne soirée à toi. Très vite sur RMC. N'hésite pas à nous rappeler, les gars, dans un instant. Paulo Breitner sera avec nous pour nous parler du Bayern, de Cancelo, sa première avec le Bayern hier soir contre Mayence, du système bavarois. On a joué à 3 derrière.
Avec mon bébé Coman sur un côté.
On en parle dans un instant dans Génération After. À tout de suite.
RMC. 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamin.
Génération After sur RMC, merci d'être avec nous, il est 20h32, tout à l'heure Marseille également à partir de 21h au programme. L'OM est-il désormais dans l'obligation de finir top 2 cette saison? Varane va-t-il manquer à l'équipe de France après l'annonce de sa retraite internationale? Génération After bien sûr avec Sofiane Zouaoui, Oussem Loussaïef et Walid Acherchour. Hein. T'as pris un petit taquet sur Twitter qui m'a fait un peu rire ce week-end, hier soir.
Oui.
Un de nos fidèles auditeurs nous dit, mais c'est donc ça la génération Walid, aller sur un stade de Ligue 1, à Reims en l'occurrence, faire 1000 tweets pendant le match, et ne pas profiter de la chance, l'avantage qu'il a d'être en tribune et de regarder un match de foot. C'est donc ça la Walid génération.
Mais vous n'avez pas honte, Walid, à chercher.
C'est ça.
Comment s'appelle ce monsieur?
Ah, je vais te dire ça. Ouais. On va lui rendre hommage.
Oui, on va lui rendre hommage.
Parce que je partage un peu son avis.
D'accord, voilà. Nico.
Mais vous n'avez pas honte, mon cher Arthur.
Alors, Nico, déjà, je trouve
alors,
ça.
Alors, le compte,
en fait, c'est Nico Germain. Ça va se comporter, en fait, que ce soit au tennis, au foot ou ailleurs. Ouais. Les gens qui profitent pas du moment. 45 photos. Ouais. Mais pas qu'en vacances également.
Ouais, oui, mais même un concert.
T'étais à deux doigts de retweeter, c'est ce que t'es en train de me dire.
Non,
peut-être qu'il l'a déjà fait
quand même. Parce que, Nico, je trouve ça dommage quand même que tu passes par un tweetos pour exprimer ton idée.
Si c'était moi qui l'avais écrit.
Tu l'as liké ou pas? Est-ce que tu l'as liké? Bon, tu l'as pas liké, mais est-ce que tu l'as liké?
Fabrice Rousseau nous dit sur Twitter. Ouais.
On l'embrasse.
Hashtag Voyage à Choix, hashtag Nico Jamin. Ouais. Il faudra creuser et demander à la Wally Génération l'intérêt de tweeter 1000 fois pendant d'accord. les matchs.
Oui,
mais quel est l'intérêt? Pourquoi ne pas profiter seulement du moment? On peut manger 1000 matchs, mais si c'est pour passer le tir sur le portable, 3 points de suspension.
Non, ah, les 3 points de suspension,
il a pas totalement tort. et je réponds à ce monsieur que j'ai.
À Fabrice,
que j'ai. Bien profité hier de mon match à Reims et que je me suis éclaté. Et c'est pas 3-4 tweets pour faire part
de ta joie,
de ma joie, de mon enthousiasme en regardant le stade de Reims aux gens qui me suivent, d'accord? Qui vont m'empêcher d'apprécier la rencontre.
Non, mais ça voudrait dire que, imaginons.
Ça fait partie aussi de mon boulot.
C'est ça la génération.
C'est comme c'est comme d'aller au cinéma et de faire 8-8 sur le film.
Non.
En plein film.
C'est pas la même
chose. Tu l'as jamais fait, toi?
Jamais.
C'est pas la même chose, Nico.
Pourquoi? C'est un spectacle.
Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me suivaient hier soir.
Qui attendaient.
Qui se sont mis devant le match. Reims-Lorient, en se disant purée. Il se passe quelque chose. Et j'aurais fait mon boulot si.
Après.
Si
tu tweets sur.
Est-ce qu'on a besoin de tes photos pour voir qu'il se passe quelque chose à Reims?
Non, j'ai tweeté que.
Mais je rappelle que vous dites accompagne la France du football aussi.
Moi, il me dit au cinéma, si tu tweets au cinéma sur un film que tu vois et que personne ne voit, c'est complètement
c'est égoïste.
C'est dingue ce qui est en train de se passer avec Carmen.
Paye 12 euros si tu vas aller voir plus tard, mais c'est dingue ce qui est.
T'as raison, Sophie.
Tiens, justement, on accueille un homme qui a sûrement un avis tranché sur la question. Polo Breitner est avec nous. Salut Polo.
Salut Polo.
Bonsoir Nico. Salut Polo. Bonsoir tout le monde.
Tu penses quoi de cette nouvelle génération? Polo qui tweet 20 fois pendant un match.
Polo va assassiner la génération.
Non, ne le lance pas sur ça.
Ouais, Polo qui a découvert Twitter il y a un mois.
S'il te plaît.
Vas-y Polo.
J'ai moins de 40 ans déjà, j'ai du mal.
Ouais.
Je sais pas, mais cette façon de communiquer, enfin même quand je vois qu'au cinéma, faut faire une photo pour dire qu'on est au cinéma, c'est vraiment le culte de l'individu.
Et que Nico pense.
C'est insupportable. Quoi.
Je savais mon Polo qui est.
Massimo Ranieri.
Ah oui, bah oui, lundi,
et
ça change pas.
Oui, bien sûr.
J'ai écouté,
hein. C'était ouais. Retweeté.
Tu m'as fait découvrir ça, Polo.
Et moi, je l'ai réécouté chez moi le lendemain, mon cher Polo.
C'est pas très génération after.
Non, mais c'est pas mal.
C'est pas mal.
C'est pas génération, c'est universel, peu importe.
D'accord.
J'ai écouté Patrick Bruel ou pas?
Bah oui.
Mais c'est pas génération after non plus.
Oui, d'accord.
Bon, allez. Patrick Bruel, par exemple, je sais pas. Non, mais je compare pas Polo.
Est-ce qu'on a le droit de parler du site de Polo où on n'a pas le droit de faire de promo pour les collègues?
Il a lancé
il a lancé un site sur la Bundesliga qui est excellent.
Alors justement, la Bundesliga, la Bully, le Bayern, qui a lancé son année 2023. Victoire hier soir 4-0 face à Mayence. On en parle dans un instant, Polo. Juste d'abord, comment on réagit en Allemagne à l'annonce du forfait de Mbappé pour le 8e de finale?
Alors, il y a deux séquences. La première, c'est lorsqu'on apprend qu'il est potentiellement absent. Et là, c'est traité d'une façon informative. En gros, il y a deux lignes, on s'en fiche complètement. Et à partir du moment où on apprend qu'il est vraiment absent pour le match aller, là, il y a des papiers qui sortent. Mais encore une fois, c'est traité d'une façon informative. C'est-à-dire que c'est pas Mbappé qui fait peur. C'est pas le PSG qui fait peur. Le Bayern, il est là pour rencontrer des équipes comme ça. Donc la presse allemande, elle est focalisée sur les problèmes du Bayern et non pas sur les problèmes du PSG. Évidemment, et je vous ai écouté sur le débat sur Mbappé, et j'étais d'accord avec Walid, c'est-à-dire que le PSG est évidemment plus fort et que Mbappé fait peur. Il suffit de voir l'Angleterre lorsqu'elle a affronté la France, comment elle a un bloc qui est plutôt bas alors qu'elle est menée au score. Il y a des choses comme ça. C'est que la vitesse d'Mbappé fait peur aux équipes en face. Le Bayern est l'une des bêtes noires, est l'une des bêtes noires historiques du Bayern. C'est quand même une équipe qui... Les Bavarois n'étaient pas contents de tirer le PSG en 8e. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est-à-dire que le PSG, c'est une équipe, on le sait, qui peut se faire battre par tout le monde, mais qui peut battre les plus grands aussi. Donc, dans la période qu'on a aujourd'hui au Bayern, qui était une période compliquée avant la rencontre de Coupe d'Allemagne de hier soir, on n'est pas content. Mais si tu veux, Mbappé n'est pas traité d'une façon extraordinaire. Il n'y a pas d'émotion en disant chouette pour nous, quoi. C'est juste, il est absent. Voilà.
Il est absent. En revanche, hier soir, le Bayern s'est rassuré, Polo. 4-0, tu disais à l'instant, en Coupe d'Allemagne. Parlons du système également, et globalement de la performance du FC Bayern.
Alors c'est extraordinaire ce qui s'est passé parce que la pression était énorme. On en a beaucoup parlé lundi Nico dans l'after. Évidemment la pression qu'il y avait sur Nagelsmann à tel point que tous les, vous savez, c'est comme dans l'administration française, on veut pas de vagues. Et lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pas avec les prestations, ben de plus en plus les grands pontes du Bayern s'expriment. Et là on était quand même arrivé à Uli Hoeneß, donc président d'honneur, le président qui s'exprimait, donc Oliver Kahn, à chaque match, à chaque prestation, le directeur sportif évidemment qui reprenait les phrases de son entraîneur, etc. Donc on est dans une période, y compris médiatique, qui était très puissante contre le Bayern en disant les trois matchs nuls à la suite, ces trois matchs nuls déjà, mais en plus les prestations sur le terrain sont pas bons. Et puis il y a eu hier soir, il y a eu comme un réveil du Bayern. J'ai pas envie de dire que c'est un Bayern extraordinaire à 100%, mais ils ont éclaté Mayence d'une façon, 3-0 à la mi-temps. Et il y a quelque chose qui est très très important. Nagelsmann en conf de presse, la banane, en disant vous voyez que je vous l'avais dit, vous avez pas été capable d'attendre, vous les gueux de journalistes, vous. Non, mais c'est ça en fait ce qui s'est passé. Et surtout ils sont passés dans une défense à 3 avec Cancelo qui a mis 18 minutes pour faire une passe décisive. Avec, vous allez voir au passage que dans les prochaines semaines, si la défense à 3 marche pas, c'est ce qu'on reprochait l'année dernière à Nagelsmann, première saison. Et en fait, et on disait, mais pourquoi tu joues pas en 4-2-3-1 tout simplement, on a eu tous nos grands succès comme ça, etc. Et là, Nagelsmann a parlé de modèle de l'avenir avec l'arrivée de Cancelo. Pavard, évidemment, se retrouve stopper droit dans une défense à 3 avec Upamecano, ultra offensif, puisqu'on a mis stopper gauche, oui. Ce qui fait que Davis s'est retrouvé sur le banc, et moi j'adore comment on motive les remplaçants dans les grandes équipes. Davis, parce qu'il rentre, il marque un but extraordinaire à la fin d'une action pour le 4-0. Et en fait, si tu veux, tu avais un vent de soulagement dans la presse allemande ce matin, comme quoi il y avait des nuages partout, et là, il fait ciel bleu, 35 degrés en Allemagne. Donc c'est assez rare. Mais c'est un peu ça ce qui s'est passé, et je peux t'assurer que tout ce qu'on parle, Mbappé, tout ça, c'est en fait, ils sont auto-centrés sur les problèmes du Bayern. Il faudra le confirmer ce week-end dans un match qui risque d'être délicat à Wolfsburg. Mais s'ils font une performance à Wolfsburg qui est la même que celle de hier soir à Mayence, je peux vous assurer que le Bayern ne va pas être loin de son grand niveau.
Tu as dit Coman, stopper, tu voulais dire piston. Piston gauche, bien sûr.
Ouais. C'est ou pas Mécano.
C'est Coman.
Polo, j'ai une petite question parce que j'ai pas pu voir le match hier. J'étais plutôt sur la Ligue 1, mais je les ai vus contre Cologne notamment. Mais juste sur l'apport de Cancelo, est-ce qu'il a joué comme un latéral qui colle la ligne ou est-ce qu'il est incorporé un petit peu plus le milieu terrain? Moi, ça m'intéresse de savoir comment il était hier.
Alors, il est essentiellement sur le côté droit et parfois il reprend le milieu de terrain pour une raison bien simple, c'est qu'il y a Moussiala et Sané hier qui étaient les deux meneurs. Oui. On se retrouve avec Müller et Choupo-Moting qui étaient tellement hauts, y compris Kingsley Coman côté gauche, que Kimmich en fait se retrouve, j'ai envie de dire, tout seul devant les trois défenseurs centraux. Donc Cancelo, il se balade un petit peu, ça alterne parfois, tu vois Kimmich qui alterne avec Cancelo, etc., ou Sané qui va prendre un côté droit quand c'est pas Moussiala, mais Cancelo même pendant au début, quand tu vois le début de la rencontre, je me suis dit Cancelo, on le retrouve à gauche. Et donc en fait, vous savez qu'il est polyvalent, il pourrait jouer à Manchester City. Je me dis mais non, il laisse sa défense à 4, etc. Puis il met Pavard à droite et Cancelo à gauche. Non, c'est qu'en fait, en cours de match, ça peut changer. Et hier soir, il était vrillé, donc il a joué 70 minutes. Ça a été assez impressionnant d'ailleurs, sa qualité technique, ça, on la connaissait. Mais t'as l'impression qu'il est incorporé complètement dans une équipe qui est polyvalente. Ça peut venir de partout. Encore une fois, c'était une équipe extrêmement offensive. Qu'est-ce qui va se passer quand Goretzka
C'est ça en fait. C'était la question que je voulais te poser. Polo, c'est que c'est très offensif ce qui a été proposé hier, et j'imagine, alors peut-être que je me trompe, mais contre une équipe du gabarit du Paris Saint-Germain, même sans Kylian Mbappé, je pense que des valeurs sûres comme Davis et Goretzka vont faire leur retour. J'ai du mal à imaginer Goretzka absent de ces rendez-vous-là.
Lorsqu'on connaît Nagelsmann, il a envie de dominer l'adversaire, il a envie d'écraser l'adversaire, il est très bavarois dans ce sens-là. Et je serais pas surpris que la prestation, le 11 qu'on a vu hier, soit le même qu'on verra, à Wolfsburg. Puis ensuite, ils ont une chance énorme, c'est qu'ils ont pas de semaine anglaise la semaine prochaine, ils ont pas trois matchs, et ils vont s'amuser contre Borum à domicile avant de se déplacer au PSG. Donc voilà, c'est ça en fait. Mais tu as raison, en fait, ce qui est très intéressant dans ce qui se passe hier soir, c'est que tu vois toutes les possibilités tactiques avec des joueurs qui n'ont pas le même profil. On n'a pas parlé de Choupo-Moting, mais Choupo-Moting, c'est quand même la révélation de la saison.
Il marque encore hier soir 20 matchs, 13 buts, 4 passes cette saison.
Exactement, c'est complètement fou. Gnabry aujourd'hui est sur le banc parce qu'on considère que c'est qu'il est pas assez bon. Sans parler de son
c'était quoi le banc Polo d'hier soir du Bayern?
Incroyable banc.
Pour voir. Alors, il y avait Blind, Gravenberch, Davis, Goretzka, Gnabry, Stanisic, les jeunes Vanner, Tell évidemment, et puis Ulreich dans les buts.
D'accord. Avec Gnabry.
Avec Dembélé.
D'accord, ok.
Qui est rentré dans okay.
Non, parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que on parle souvent du banc du Paris Saint-Germain, et dans une double confrontation en Ligue des Champions, apparemment, c'est pas important. Et puis, je crois qu'au mercato des transferts, le Bayern Munich avait un besoin au poste de gardien. Ils ont pris Sommer, il me semble. Et ils avaient besoin au poste de latéral.
Ils l'ont remplacé.
Et ils ont pris Cancelo.
Et Lucas, ils l'ont remplacé par Blind.
Tu peux rajouter Blind.
Tu veux dire que le Bayern a fait le boulot que le PSG n'a pas su faire.
Non, mais c'est,
d'accord. Mais Sommer aussi.
Non, mais c'est intéressant que Polo nous le dise.
Ça va être super intéressant de voir comment Polo pourra peut-être confirmer aussi comment le Bayern va se présenter face au PSG, ah, parce oui. que l'année dernière là il était repassé sur un système un peu basique en 4-2-3-1, mais l'année dernière je me souviens qu'il essaye avec un système à 3 et puis des pistons qui étaient très offensifs, il voulait imprimer sa patte Nagelsmann à ce moment-là, finalement ça passe pas donc contre Villarreal en Ligue des Champions, mais j'ai la sensation qu'il a envie de marquer aussi et ne pas rester dans un 4-2-3-1 à la bavaroise comme ça se fait de manière générale et de marquer de son empreinte cette équipe. Donc j'ai hâte de voir ça aussi tactiquement.
Mais ça c'est génial parce que ça c'est le prochain épisode de la presse. C'est-à-dire si ça marche pas, il va se faire démonter. Ouais. Là, non mais vous vous rendez pas compte de l'histoire du 3-4-2-1. Moi je l'ai vu avec Hoffenheim à l'époque, avec Leipzig et tout ça, c'était extraordinaire à voir jouer. Mais on était dans une logique de beau jeu, on s'en fichait, ouais. Il a gagné tous ces matchs 4-3, 3-2, tout ce que vous voulez. Là on est au Bayern, il doit aller chercher la Ligue des Champions, c'est pas pareil.
Rapidement Polo, avant la pause, Sadio Mané, il en est où dans sa reprise?
Alors il a commencé à rejouer, alors il a couru la semaine dernière, il a commencé à rejouer avec le ballon, mais je peux faire une petite remarque qui est extraordinaire. Vous savez qu'on ne parle pas de Sadio Mané en Allemagne. C'est-à-dire que Sadio Mané, est-ce qu'il sera là contre le PSG? C'est l'Europe qui parle de Sadio Mané. C'est extraordinaire le décalage qu'il y a entre des pays qui annoncent que Sadio Mané va jouer aux 10 minutes ou sera dans le groupe pour le match aller contre le PSG ou pas, et ou qui annoncent qu'il sera complètement forfait, et l'Allemagne, tout simplement, qui n'en parle pas.
Mais c'est limite un peu professionnel quand même, on parle de Sadio Mané, quoi. C'est pas pareil.
C'est tout ça. Parce que moi, on m'a dit Sadio Mané forfait. Pendant un moment, j'ai entendu Sadio Mané forfait pour le match aller. Ok, je vais vérifier en Allemagne. Rien, pas de déclaration des médecins. L'info, elle vient d'Espagne. Ah bon, elle vient d'Espagne. D'accord. Donc en Espagne, ils savent ce qui se passe en Allemagne. C'est repris partout en Europe. Partout en Europe. Je parle même pas de la communauté africaine, évidemment, qui suit Sadio et tout ça. Mais en Allemagne, il y a rien. Mais rien de rien. C'est-à-dire que c'est pas, on apprend juste qu'il a repris, qu'il s'est remis à courir, qu'il est peut-être en avance sur le programme initial, qu'il a recommencé à rejouer au ballon. Et, soyons honnêtes, qu'il soit là ou qu'il soit pas là lors du match aller, c'est pas important. S'il peut jouer, ce sera au grand maximum 5-10 minutes. Faudra voir pour le match retour. Mais on n'est pas là. Et d'ailleurs, Sadio Mané, c'est super intéressant tactiquement parce que imaginons que le Bayern se mette à bien fonctionner comme ça dans un 3-4-2-1 ou 3-5-2 si vous voulez, vachement offensif. On fait quoi de Sadio Mané? Fait quoi de Gnabry? On fait quoi de Davis? Toutes ces choses-là vont être, je pense, passionnantes à vérifier dans les prochains jours.
C'est l'équipe européenne la plus intéressante de la saison. Je le maintenais en début de saison.
Merci Polo. Très bonne soirée à toi. À très vite dans l'After, dans Génération After. Pause les gars, dans un instant, l'avis d'Oussem. La soirée d'hier en Ligue 1 a prouvé que nous sommes bien la Ligue des Talents. Restez avec nous sur RMC 20h46.
RMC 20h22h. Génération After.
Avec Oussem Loussaïef, Walid Acharchour et Sofiane Zouaoui de Winamax FC, les leurs de la vie d'Oussem. La journée d'hier a prouvé que nous sommes bien la Ligue des Talents. Jingle Oussem.
Ça fait partie du football de chambrer, mais attention au revers du bâton.
Avec le ton, en plus, au revers du bâton.
Oui, c'était à l'époque on faisait de la télé. De toute façon, on vient d'une émission de télé.
Alors, Oussem, on t'écoute.
Exactement, les talents. La Ligue des Talents, c'est vrai qu'on s'est souvent moqué de notre Ligue 1 et de la boucherie qu'on a consommée ces dernières années. Mais c'est vrai qu'il y a eu un changement. Il y a eu des choses qui se sont passées, des entraîneurs qui sont arrivés et surtout qui ont mis en avant notre formation. Parce que la formation, elle a toujours été bonne en France, qu'on le veuille ou non, même s'il y a des choses à redire là-dessus. Mais on a toujours formé de très bons joueurs. Ça a toujours existé. Par contre, on n'avait pas les entraîneurs pour les lancer de la meilleure des manières possibles. Et aujourd'hui, grâce à des hommes comme Genesio ou d'autres, on arrive par exemple à voir exploser des jeunes joueurs. Et je pense à Genesio parce que je trouve que sa gestion de Désiré Doué, qui est de la génération dont j'ai envie de parler, je trouve qu'elle est très intéressante. Il le fait jouer à plusieurs postes, certes, mais il arrive à lui donner du temps de jeu lorsqu'il doit en avoir. Et moi, je parle d'une génération, surtout celle des 2004, 2005, 2006. C'est ceux qu'on voit exploser en ce moment. Alors, je vais vous donner des noms, ça va peut-être vous parler. parlé, mais Zaïre Emery, qui est lui 2006, Leny Yoro, Désiré Doué, Batshuayi, Koumbédi, Ben Seguir, Boilani, pour ne citer qu'eux, sont des joueurs qui sont en train d'enchaîner les matchs en ce moment. Et souvent, quand on veut contredire l'envie de faire jouer ces jeunes-là, on parle de post-formation. Oui, mais ils ne sont pas assez post-formés, ils ne sont pas encore prêts pour le très haut niveau. Mais je pense qu'en fait, c'est une réflexion très à l'ancienne. Il faut arrêter de réfléchir comme ça sur la post-formation, selon moi, et moi je n'ai pas de responsabilité dans un club, mais je pense que d'avoir du temps de jeu fait partie de la post-formation. Il faut enchaîner les matchs, c'est ce que je disais la dernière fois quand on parlait des jeunes du Paris Saint-Germain. Donnez-leur du temps de jeu ou prêtez-les, ça va leur permettre d'enchaîner les matchs et de terminer, de conclure leur formation. Et ces jeunes-là, ils ont quelque chose de différent par rapport aux années dont je parlais tout à l'heure, les années précédentes, c'est qu'ils ont une maturité technique, mais ils ont aussi une maturité dans leur attitude, que ce soit avec ou sans ballon. Ils proposent quelque chose qu'on voit très rarement chez des jeunes depuis quelques années. Je trouve que dans leur attitude, on sent tout de suite qu'ils sont très prêts pour le haut niveau. Moi, quand je regarde le match de Désiré Doué, je me dis, mais ce petit-là, t'as l'impression qu'il joue depuis 10 ans. T'as l'impression qu'il est là depuis 10 ans. Et Ben Seguir, c'est pareil à Monaco. Dans l'attitude, et je te parle pas de l'attitude du regard caméra, je te parle de l'attitude de footballeur, la première prise de balle, la prise d'information, tous ces gestes-là qui font partie du football et qu'on ne commente pas, parce que nous, on préfère commenter les statistiques ces derniers temps et on commente ce qu'on retient, le but, la passe décisive. Mais je trouve que dans l'attitude, ces joueurs-là, ils n'ont pas besoin de temps. Je vais paraphraser Kylian Mbappé. Faut pas leur parler d'âge. Parce qu'ils sont prêts, ils ont cette maturité, ils ont compris le football sur le terrain et le monde du football dans la globalité. Donc je m'adresse à tous ceux qui sont de l'ancienne génération, et malheureusement on en a même autour de nous, qui nous disent non mais ils sont trop jeunes, on peut pas jouer au très haut niveau à cet âge-là. Si on peut jouer, alors pas tout le monde, mais si on peut jouer.
Qui dit ça?
Ah, j'en ai entendu quelques-uns.
Ah bon?
Ouais.
Donne des noms.
Ah, Laurent Blanc, par exemple.
Ah oui.
Il peut y aller.
Ah
bah oui.
Ah oui, Laurent Blanc, il n'a pas la jeunesse.
C'est le problème. Ah oui.
Oui, oui.
Il l'a dit.
Non, mais t'as raison. Encore une fois, le but, hier, de Désiré Doué.
L'attitude,
avec un
relâchement, tout.
Tranquille. T'as l'impression qu'il s'est trouvé 250 fois.
Nico, c'est prise de balle.
Situation en ligne.
C'est prise de balle à Désiré Doué.
La première de Ben Seguir aussi.
Tout.
La première de Ben Seguir.
On est quand même sur deux joueurs. Donc là, Désiré Doué et Ben Seguir.
Là, c'est le très haut du panier aussi. Tu vois.
Donc, 17.
Normal de les intégrer.
C'est pour ça que je dis pas que c'est pas pour tout le monde.
Une plus-value.
Ouais,
exactement.
Il faut féliciter un coach comme pardon, j'ai oublié le nom, Philippe Clément de Monaco.
Ah oui, parce que sortir du 11 Mbolo, faut le vouloir.
Bah, exactement. Hein.
Surtout que le mec, quand il rentre, il marque, mais il continue de lui faire confiance à Ben Seguir.
Bravo.
On a quand même eu deux joueurs, donc 17 ans, 2005, Ben Seguir et Désiré Doué, qui ont fait deux énormes performances au Vélodrome en l'espace de 10 jours. Quand tout à l'heure, Oussem parlait de personnalité, Ben Seguir, ce qu'il fait sur la fin mi-temps au Vélodrome, Rongi est en immense difficulté, il sort sur blessure. Avec Golovin, sur la première mi-temps, ils sont extraordinaires entre les lignes. Désiré Doué, c'est pour moi le meilleur joueur à Rennes sur le match contre l'OM en Coupe de France, sur la première mi-temps notamment. Ils ont une capacité, moi, Désiré Doué, j'ai eu la chance de le voir en Gambardella l'année dernière, notamment. Moi, ce qui me fascine, surtout Nico, c'est que il y a une transformation physique de ces joueurs-là. Ouais. Moi, l'année dernière, je l'ai vu en Gambardella. C'était un bon joueur, intelligent, mais on reconnaît à l'œil nu qu'il a une vraie qualité technique. Mais c'était Mathis Tel qui est parti au Bayern, qui athlétiquement faisait quand même d'énormes différences. Je le revois 3 mois plus tard à Rennes.
Envergure.
Tu vois.
Tu peux dire Zaïre Emery aussi.
Tu vois à cet âge-là. Et moi, le joueur français très très jeune qui arrive à transformer très très rapidement les minutes qu'on lui donne.
Exactement.
Moi, je trouve ça dingue. Et c'est vrai que tu as raison. Il y a beaucoup de gens qui disent dans les clubs, arrêtez de parler des jeunes. Les jeunes, ça te fait pas gagner un titre. Les jeunes, voilà. Il y a aussi.
Ils doivent te faire gagner des titres.
Il y a aussi beaucoup de débats sur. Bah, aujourd'hui, les jeunes, quand il y a la crise, c'est un peu les enfants de la crise. Ça te permet un peu d'envoyer un jeune ou deux pour voir s'il y a cette capacité à pouvoir tirer le collectif vers le haut. Moi, je pense au Barça à l'époque, Ansu Fati, il avait commencé à 16-17 ans, Pedri, Gavi, et aujourd'hui, ils se sont incorporés dans le collectif et ça devient des joueurs majeurs. Et moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de joueurs, et il y en a encore qui vont arriver, à 17-18 ans, à partir du moment où tu les mets dans ton 11, ils n'en ressortiront plus.
Et ce sont des choix, Walid. C'est important la pression que tu fais. Ce sont des choix parce que l'effectif à Rennes, il est pléthorique. Tu peux te passer de Désiré Doué. Tu peux.
Il y a une vague de blessures quand même qui est aussi
accélérée. Oui, mais je suis désolé.
Avant la vague de blessures, il lui a fait.
Je suis désolé, tu peux mettre Doku à la place de Désiré Doué. Tu peux jouer différemment, tu peux. Mais il a tellement impacté par ses minutes jouées, comme tu disais Walid, qu'il a, que tu peux pas t'en passer. Et vraiment, j'insiste, sortons des statistiques, sortons de tout ça. Et encore, eux, et Stats, les joueurs dont on parle, l'attitude, elle est incroyable. Ouais. À la perte de balles, pour proposer la première touche de balle,
tout ce qu'on aime dans le monde. C'est Gamala qui joue en Gambardella derrière une main courante ou au Vélodrome devant 55
000. C'est la même chose.
C'est pareil. Il y a plus l'autre jour ici. Il y a plus une génération de gars qui ne pensent plus.
Il y a une insouciance qui leur permet d'être à ce niveau-là, quoi qu'il arrive. Et surtout, et c'est là où c'est important d'insister, c'est que à chaque fois, mais vraiment, vraiment, à chaque fois qu'on parle de ces jeunes-là, on dit souvent attention, faut pas s'enflammer. Mais c'est quand même très très dur de ne pas s'enflammer en fait.
Non, mais parce que quand tu vois, par rapport à l'enflammade, Walid, il y a un truc très important aussi, juste pour ajouter à ce débat-là, c'est que l'exemple de Désiré Doué, il est très parlant. C'est que pour intégrer ces jeunes-là, en fait, faut pas que tu leur fasses comprendre que c'est eux qui doivent soutenir l'équipe, mais que ça doit être un ajout, ajout très qualitatif. Oui. Par exemple, Désiré Doué, quand il fait son match en Europa League, j'ai oublié l'adversaire malheureusement, mais il fait un moment une entrée où il fait peut-être
il marque mais il fait pas une bonne entrée.
Ah ouais. Un geste de trop, il se fait reprendre tout de suite par Amari Traoré.
Bourigeaud.
Ce que je veux dire, c'est qu'attention, les clubs,
l'accompagnement,
les clubs qui sont cohérents sur la structuration de leur effectif, sur les cadres aussi qui entourent ces jeunes-là, ça aussi c'est très important, c'est un cercle vertueux à garder.
Voilà, dans un instant les gars, Marseille dans Génération After, l'OM est-il désormais dans l'obligation de finir top 2 en Ligue 1? On en débat, on vous attend nombreux supporters de l'OM au 32-16. Je vous rappelle qu'il y a des matchs ce soir également, le Real qui va affronter en Liga Valence, très avec important, notamment un Camavinga encore latéral gauche. Allez, à tout de suite dans Génération After sur RMC.
RMC. Il a joint les faits...
Les actes au fait.
L'acte à la parole plutôt.
Stéphane n'a pas dit Anthony Lopez.
Parce qu'on parle de gardien de but, on parle pas de chauffeur autoroutier.
Ça fait partie du football de chambrer, mais attention au revers du bâton.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After avec Walid Acharchour, Oussem Loussaïef et Sofiane Zouaoui de Winamax FC. Tout à l'heure, on parlera de Varane, messieurs, à 21h30, pour nous appeler également au 32-16. Cette question, lui qui a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale en équipe de France, va-t-il manquer au bleu? On en débattra. D'abord, Marseille au programme. L'OM est-il désormais dans l'obligation de finir au moins deuxième de Ligue 1? Marseille l'est depuis hier soir, ce qui n'était plus arrivé depuis la 9e journée. Un point de plus que le Racing Club de Lens. La série, 7 victoires sur 8 matchs en Ligue 1. Invaincu depuis octobre dernier, oui, non, en Ligue 1.
C'est pas l'OM, c'est pas possible.
C'est l'OM.
Non, c'est pas l'OM.
Ça te fait mal, hein.
Rendez-nous l'OM.
Une nouvelle profondeur de
crise.
Une nouvelle profondeur de banc, 3 recrues. On parlera tout à l'heure notamment de Malinovski, qui est un sujet qu'on a peu évoqué pour l'instant dans l'after. Ce que vous avez pensé de ces 3 premières sorties avec l'Olympique de Marseille? Parce qu'on dit, tout le monde dit 3 grosses recrues à Marseille. Le dernier arrivé, on ne sait pas vraiment encore comment il va s'adapter. Le premier arrivé, Malinovski, on va voir, on va lui laisser quelques matchs encore. Pour l'instant, il n'y a rien d'incroyable.
Après, sur le papier, ça reste quand même 3 recrues.
Oui, on est d'accord.
Si on m'avait dit il y a 2 ans que l'Olympique de Marseille pourrait aller récupérer un joueur de la qualité d'Unai, de Malinovski qui était à l'Atalanta et un gros prospect portugais à 30 millions.
Unai qui était à Avranches, hein, il y a encore 2 ans.
Après, est-ce que ça va réussir? Voilà. Ça sera autre chose.
Alors, vous nous appelez, l'OM est-il désormais dans l'obligation de faire top 2 cette saison en Ligue 1, supporter marseillais? Le 32-16 est ouvert, Max, c'est là au standard. Je commence donc avec Sofiane. Commençons avec toi, tiens.
Sur cette question précise,
oui.
Écoute, moi je suis partisan de dire oui. Après, l'obligation, c'est un mot un petit peu. Voilà, il faut y aller. Hein, c'est un mot de wording, comme
vas-y,
on dit.
Sofiane,
oui, moi je dis oui, l'obligation, parce que je crois un truc très important dans le process de Longoria. Je me rappelle, on avait fait il y a quelques mois un avis sur Pablo Longoria et sur la gestion des transferts et des mercatos, qui pour moi est une gestion unique. C'est-à-dire que, évidemment, que tu en avais peut-être besoin à l'époque, mais il y a quand même une grande lessive de joueurs. Je crois que. J'ai compté un petit peu en 5 mercato qu'il a réalisé, il y a pratiquement une trentaine de joueurs qui ont tourné entre les arrivées et les départs, ce qui est énorme. Et ce qui est fou aussi, c'est que malgré ce turnover important, tu te retrouves avec une saison où tu termines deuxième, donc c'est positif. Après, il y a des accros en Europa League et puis cette saison en Ligue des Champions. Mais ce que je veux dire, c'est que ton projet, il est quand même sur une réussite malgré ce turnover. Là où je te dis que pour moi, il y a une obligation de finir deuxième, c'est que pour moi, avec ce mercato hivernal, il rentre dans une nouvelle phase. phase. Il rentre dans une nouvelle phase parce que tu as acheté 3 joueurs sur des postes ciblés. Tu as acheté 3 joueurs pour du moyen long terme, ce qui n'était pas forcément le cas sur tes premiers mercato. Tu as acheté 3 joueurs chers quand même, il faut le préciser.
Oui, investissement.
Voilà, bien sûr, tu as vendu un peu plus que d'habitude, mais tu as acheté 3 joueurs chers et tu as surtout un peu nettoyé les angles. Tu as des joueurs que tu as fait partir, Isaac Touré notamment, Luis Suarez notamment, Gerson. Et aujourd'hui, tu as un effectif avec 21-22 joueurs et seulement 3 joueurs qui sont pas vraiment là ou qui sont en prêt avec option d'achat. Avant, tu savais pas si lui, il appartenait à l'OM, si lui, il allait rester. Aujourd'hui, je trouve qu'on se rapproche de plus en plus vers un effectif fixe. Et pour moi, tu rentres dans une nouvelle phase. Et cette nouvelle phase doit être matérialisée pour moi par l'obligation de finir deuxième. Précisons un truc incroyable parce que j'ai regardé les stats. L'OM, ça fait depuis le début des années 90, donc les titres de champion, qui n'ont pas enchaîné 2 top 2 d'affilée depuis les années 90. Donc aujourd'hui, je trouve que symboliquement et même dans la cohérence de ton projet et financièrement, oui, ils ont l'obligation de finir 2 pour moi.
Tiens, on va écouter Pablo Longoria tout de suite. La question lui a été posée par l'excellent Florent Germain, bien sûr. En conférence de presse, une question RMC.
Ça ne peut être que lui.
Est-ce que vous jouez le titre cette saison, Pablo Longoria? Écoutez.
C'est pas l'intention de penser tous les temps dans un titre. Ce qu'on avait dans la tête dans le moment que c'est fini le mercato, c'était de gagner à Nantes. Pour nous, dans ce moment que la dynamique est positive, il y a des messages qui sont très importants. Humilité, c'était une semaine de massage, massage, massage. Ah, le mercato se passe bien, massage, massage, massage. Dans les moments qu'il y a un minimum de relaxation dans cette équipe, on n'arrivera pas à gagner des matchs parce qu'on est une équipe que notre force, c'est le collectif, c'est la volonté, c'est l'intensité, c'est l'identité du jeu. On doit rester dans l'humilité et on doit penser seulement qu'au prochain match. Dans les moments qu'un club perd l'humilité et perd sa dimension, c'est toujours un problème.
Voilà, il reste prudent match après match, bien sûr. Ce qui est marrant, c'est que je regardais la conférence de presse sur la chaîne Twitch de l'OM. Tu avais tous les commentaires des supporters marseillais.
Ils sont aussi dans l'humilité.
Pablo, full love, évidemment, et surtout dans l'humilité. Ouais. Il parle maintenant comme un président ou un entraîneur. Non, calmons-nous, le titre non. Alors qu'au fond.
C'est la crainte, Nico.
Alors qu'au fond.
D'ailleurs, en termes de.
T'es obligé d'y penser quand t'es supporter de l'OM.
Il a raison. Il a raison, Pablo Longoria, d'être dans l'humilité. Maintenant, je suis persuadé que les joueurs, l'entraîneur et le président pensent à qu'une chose, c'est le titre. Et je pense que l'Olympique de Marseille doit penser au titre. Le dire, c'est autre chose. Oui. Mais être à 5 points du Paris Saint-Germain, à l'heure actuelle,
ce
Paris Saint-Germain-là, qui titube dans le jeu, qui vient de perdre contre Rennes, qui vient de perdre contre Lens, qui a perdu des points contre Reims à la maison, qui vient de perdre Kylian Mbappé pour 3 semaines avec une équipe de l'Olympique de Marseille qui a fait un recrutement, on l'a dit tout à l'heure, sur papier, qui reste important avec Unai Malinowski, avec Vitinha qui va être incorporé, ouais, avec un match par semaine, hormis la Coupe de France bien évidemment, mais un match par semaine sans Coupe d'Europe, si l'Olympique de Marseille, parce que l'appétit vient en mangeant, Nico, moi j'ai beaucoup critiqué la direction que prenait l'Olympique de Marseille en début de saison, mais tout ce qu'ils font sur la dynamique, ça doit être valorisé et l'Olympique de Marseille doit y aller, doit vraiment se donner les moyens de ses ambitions. Et j'ai l'impression que le mercato, moi pour moi, a été fait pour l'année prochaine, mais aussi pour se dire peut-être qu'il y a un coup à faire sur ces 6 prochains mois.
On a beaucoup analysé de manière structurelle là depuis le début du talk, mais il y a aussi une réalité. Il en parle aussi le président Longoria, c'est que la production est exceptionnelle. Il faut l'avouer, il faut l'admettre.
C'était un peu moins bien contre Nantes sur la première.
C'est vrai, mais ce que produit le club depuis quelques semaines, que moi, ça me donne, comme tu disais, l'appétit vingt ans mangeant. J'ai envie de voir plus, j'ai envie de les voir jouer presque tous les 2-3 jours. Alors oui, c'est énergivore. Oui, leur style de jeu peut jouer dans les batteries des joueurs marseillais, mais c'est exceptionnel ce qu'ils produisent. Alors il y a du déchet en général quand tu produis beaucoup. Moi, je suis désolé, un joueur qui est typique de tout ça, c'est Nuno Tavares. Il y a énormément de déchets dans ce qu'il fait, mais la générosité avec
laquelle il est récompensé au bout.
Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, ce que propose ce club-là, tu fais rentrer 4 joueurs contre Nantes d'un coup, et ces 4 joueurs sont Guendouzi, Payet, Klos
et
Unai. Non mais c'est eux.
Non mais aujourd'hui l'effectif qu'a l'Olympique de Marseille pour jouer sur un tableau comme le championnat de France, mais il est pléthorique.
Et dans le style de jeu, tu n'as aucun impact. Alors que tu as changé le profil des joueurs.
Évidemment, c'est ça qui est fort. Tu vas changer Unai pour Guendouzi, tu vas changer Veretout pour.
Non mais juste Nico, j'ai fait une petite erreur. J'ai dit depuis les années 90, ils ont fait premier, deuxième, 2008, 2011, mais ils l'ont fait qu'une fois, donc depuis les années 90. Merci à coach d'émission sur Twitter qui me le répète.
Je vais accueillir Benoît, supporter de l'OM au 32-16. Salut Benoît.
Salut à tous.
Salut, bienvenue dans Génération After. Heureux de t'accueillir, Benoît. Alors, tu le dis ou pas, franchement? Est-ce que tu vises le titre de champion?
Ah, moi, je pense que j'ai envie de viser le titre, clairement. Ah. C'est la saison ou jamais. On a un PSG qui est plus faible que ce qu'il n'a jamais été ces dernières années. Nous, derrière, on monte en puissance. Comme vous disiez tout à l'heure, la production de jeu, elle est magnifique. Je trouve que dernièrement, on voit des matchs de plus en plus aboutis. Manque plus, peut-être qu'un peu plus de réalisme en espérant que Vitinha soit peut-être justement ce qui nous manquait. Mais vous l'avez dit vous-même. Unai vient d'arriver. Il rentre au bout de 3 minutes. Il est déjà magique. Enfin, c'est à peine incroyable ce qu'on voit en ce moment.
C'est vrai que Marseille est sur un nuage, hein. C'est hyper fluide. Et bon, ce qui s'est passé hier avec Unai, même si Jérôme Rotten dit qu'il a une chance maximale sur son but, quand même.
Oui, on a le droit quand même d'apprécier le premier crochet et la finition. Et puis, on connaît les qualités d'Unai, notamment sur cette capacité à pouvoir jouer poste de numéro 8, un peu plus haut, le pressing, le coffre. Moi, j'ai.
Falloir gérer cet effectif aussi.
Mais si la tête.
Quand tu dis gérer,
si la tête suit pour Unai, moi, je me fais vraiment, vraiment pas de soucis sur ce joueur-là. Mais pour revenir très rapidement sur les derniers matchs en plus, c'est que on a dit la production en 2023 reste exceptionnelle, mais même quand ça va mal, même quand c'est un peu moins bien, tu prends la première mi-temps contre Nantes, tu prends la première mi-temps contre Monaco, t'as cette espèce de baraka, cette espèce de baraka contre Monaco où les 30 premières minutes Monaco fait un match exceptionnel au Vélodrome. C'est l'équipe qui met le plus en danger l'Olympique de Marseille, et t'as Ben Yedder qui décide de mettre un piqué, t'as Van der Sun qui décide de vendanger, et derrière t'as en deuxième mi-temps t'as cette possibilité de revenir dans le match et de même peut-être le gagner. Donc il y a même ça, cette force de caractère, cette capacité à avoir un petit peu cette réussite. Mais la réussite aussi, ça se cherche. Et donc sur la prochaine vague de matchs, tout à l'heure on en parlait pour le Paris Saint-Germain, mais si l'Olympique de Marseille fait un gros coup contre le PSG, sincèrement, ça te donne des envies. Et moi, je vais devenir de plus en plus exigeant avec cette équipe de l'Olympique de Marseille, parce qu'avec ce qu'ils produisent et ce qu'ils ont en magasin. Et le calendrier, parce que Rennes va jouer en Europa League, parce que Lens est un peu moins bien, ils ont pas le même effectif, parce que Monaco va jouer en Europa League aussi, et que le PSG va jouer contre le Bayern, ça va être l'équipe la plus fraîche du haut de tableau, et il va falloir en profiter pour l'Olympique de Marseille.
Benoît, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, moi je veux rajouter une autre chose. Vous avez fait beaucoup de débats sur le PSG en me disant qu'il n'y avait aucune progression, voire des régressions de joueurs, et nous on a l'impression de l'effet inverse. Est-ce que vous avez vu le niveau de Balerdi par rapport au début de la saison? C'est assez fou de voir que ce joueur qui n'a jamais convaincu depuis qu'il est arrivé est à ce niveau-là.
Alors, Balerdi, je me bats avec Kevin Diaz toutes les semaines pour lui dire que quand même il a un truc ce joueur. C'est pas Virgil van Dijk, mais qu'il a quand même un joueur. Moi on me dit que Balerdi il a aucune qualité. Moi je trouve qu'il progresse sous Tudor, et que déjà même l'année dernière sur les 3 premiers mois, il y avait, même s'il y a des sauts de concentration, mais il est très jeune encore Balerdi, il a 22-23 ans, je trouve qu'il est de mieux en mieux, et hier il fait un excellent match contre Nantes,
hein. Et là où tu as raison Benoît, et c'est ce qu'on dit très souvent dans Génération After, c'est que l'objectif premier, selon moi en tout cas, et même on en avait déjà discuté quand on avait parlé de Tudor, c'est l'objectif premier d'un entraîneur, c'est de trouver et d'aller chercher la quintessence de ses joueurs, et c'est vrai que lui il le fait à merveille, il fait progresser et puis il fait jouer les joueurs sur leur qualité, très important.
Benoît, merci d'avoir fait le 32-16. Tu reviens quand tu veux, évidemment. On va prolonger sur Marseille. Bien sûr, on a des appels. Yacine sera là avec nous également. C'est parti entre le Real en Ligue. C'est important pour le Real, hein, qui est à 8 points avant ce match du Barça. Un match en moins. Real Valence 0-0 après 7 minutes de jeu. Je vous rappelle la composition quand même. C'est intéressant. Camavinga qui est latéral gauche. Ce soir, Modric, Kroos, Ceballos, le milieu à 3. Asensio, Benzema, Vinicius devant. Et puis la Juve joue également ce soir. Un match, un quart de finale de Coupe d'Italie face à la Lazio, 0-0 après 10 minutes de jeu. Je regardais si Rabiot était bien titulaire.
Et Pogba, il joue pas
du tout.
Pogba, ça sent mauvais. Ouais.
Absence sur
blessure. Allegri, il a dit que pour lui, sa meilleure forme, ce serait dans 2-3 mois.
Ah, je croyais en, d'accord, 2-3 mois.
Ouais, sa meilleure forme.
Donc en avril, quoi.
Il va peut-être rejouer d'ici là, mais que pour lui.
Il sera 100% d'ici le mois d'avril. Allez, on prolonge sur Marseille. Est-ce que Marseille doit avouer qu'il joue le titre absolument cette saison? Restez avec nous. Génération After sur RMC, 21h13. À tout de suite.
RMC, 20h22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Walid Acharchour, Sofiane Zouaoui et Oussam Youssaïef, on est ensemble jusqu'à 22h. À 22h, Gilbert et Daniel prendront le relais dans un lieu insolite, on n'en dit pas plus. Reste avec nous sur RMC. Marseille est-il désormais dans l'obligation de faire au moins deuxième de Ligue 1, voire plus? Vous l'avez compris, on parle de titre également. Yacine est avec nous, supporter marseillais. Salut Yacine.
Bonsoir à tous.
On va t'accueillir dans Génération Yassine. After. Yassine, alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu te caches, toi aussi, ou pas? T'es un président de Ligue 1?
Non. Moi, je dis les choses comme il faut. Eh bien, écoutez, franchement, là, il faut pas se cacher. Il faut dire les choses. Moi, je pense que Marseille, là, il faut vraiment dire les choses haut et fort. On joue le titre. Paris, moi, cette année, je pense qu'ils sont plus que prenables. Si on joue pas le titre maintenant, ben, c'est bon, c'est pas la peine. Hein. Faut arrêter, faut passer à autre chose. Faut jouer le maintien, faut jouer autre chose. Mais là, faut vraiment. Là, je pense qu'on a pas eu ces armes depuis vraiment. Bon, je vais aller vraiment loin depuis l'époque de Deschamps, 2010. Depuis l'époque du titre, justement. J'ai pas ressenti cette chose-là depuis cette époque-là. Donc, moi, pour moi, maintenant, il faut dire les choses. Si cette année, on joue pas le titre à fond et qu'on le remporte pas, là, il y a un gros problème.
Il y a l'importance également, Yacine, de ce match de Coupe de France. Hein. C'est symbolique peut-être, même si à Marseille, on n'a pas gagné la Coupe de France depuis plus de 30 ans. Si tu bats Paris au Vélodrome, ça va plus que lancer tes trois derniers mois en Ligue 1, certainement.
Non, moi, comme je disais, il va y avoir deux confrontations là, contre Paris. C'est minimum une victoire.
Sans Mbappé.
Ouais, sans Mbappé, sans Ramos, en face, il y a beaucoup de casse. Y a pas, de la casse, c'est pas le mot vraiment qu'il faut employer, mais en face, en fait, moi, ce que je disais tout à l'heure à Adri, c'est que le problème maintenant, le problème, c'est un problème pour Paris, mais pour nous, c'est pas un problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, il manque quelque chose à Paris. Je sais pas, après, voilà, je suis pas supporter du PSG, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose, je sais pas. Je sais pas si c'est les joueurs, je sais pas si c'est l'entraîneur. Il y a quelque chose, je sais pas. Comme il disait tout à l'heure Walid, Mbappé, après moi ça m'intéresse pas de parler du PSG, mais voilà, c'est vrai que j'écoute un peu et c'est vrai qu'il a pas tort Walid ce qu'il disait tout à l'heure. J'ai l'impression que je sais pas, il y a pas, je vais pas dire l'amour, nanani, nanana, ça c'est un autre débat. Mais je pense qu'il y a là vraiment ils sont prenables sur tous les aspects. Sur
ouais, c'est le mot. Après les gars, attention Paris. Si Paris met plus d'intensité, hein, c'est pas gagné. Hein.
Ah oui.
Paris doit marcher sur tout le monde en Ligue 1.
Les entraîneurs pas très facile. Pour l'instant,
attention.
Mais pour l'instant, ils marchent sur très peu d'équipes. Le PSG.
Faut qu'ils aient confiance. Tout à l'heure, on parlait de bascule avec le mercato. Moi, j'attends aussi une bascule sur des matchs symboliques. Évidemment que sur les saisons, ils finissent très bien l'année dernière deuxième, et puis cette saison, ils sont très bien lancés pour faire top 2 aussi. Mais il y a des matchs symboliques qu'ils ont manqué l'année dernière. Moi, j'ai encore en travers de la gorge le match contre Nice en coupe, où tu as la possibilité d'aller te faire une finale alors que le PSG n'est plus dans la compétition, ils sont éliminés. T'as les matchs en Europa League, Galatasaray, c'est un match aussi bascule. Le match face à Feyenoord.
Il y a un contre Reims aussi en Ligue 1, je me rappelle.
Mais moi, je te parle vraiment de gros adversaires et d'adversaires symboliques. Même cette saison, le match face à Tottenham, ils peuvent te faire basculer dans autre chose. Il manque un truc à Marseille. C'est le petit match bascule face c'est un gros ou symbolique, et là quand même t'as les deux avec le Paris Saint-Germain, tu peux les sortir de coupe, leur mettre la tête sous l'eau avant le match face au Bayern, et toi te faire peut-être un petit kiff sur une coupe et jouer toujours le top 2. Donc il manque encore ça, je trouve, et là c'est le bon moment.
Je pose une question comme ça: qui a le meilleur banc aujourd'hui entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain?
Je pose une question.
Non, c'est une très bonne question.
On répond PSG comme sur les années d'avant. On répond PSG tout de suite là, maintenant.
Non,
comme
t'as eu le silence qui a accompagné ta question.
Voilà. Non mais
c'est pas évident.
Non, mais après, c'est toujours dur ces comparaisons. Si je te mets Kitiqué du côté de l'OM et Kitiqué il sort de banc, c'est un gros. Ouais, tu vois. Ouais. C'est pas la même chose. C'est pas le même contexte. Mais
oui, c'est pas le même contexte. Mais alors, je vais pas parler de qualité de joueur. Je vais parler de rendement.
Oui, de rendement, oui.
Oui, d'accord. Le banc est plus impressionnant.
Mais le banc de Marseille hier, par exemple, Tudor fait entrer Klose, Guendouzi, Unai, Payet.
Oui, c'est pas mal. Voilà.
Quelle entrée d'Unai,
Unai aussi.
Non, mais c'est quand même problématique.
Après, si à l'OM, je te dis, tu fais rentrer Soler et Kitiqué, tu vas me dire, c'est quand même pas mal, tu vois.
Paris hier fait entrer Kitiqué, Renato, Zaire Emery et Bernat.
Oui, mais c'est pas que je te parle de rendement.
Ça se vaut.
Mais c'est quand même problématique parce que là, on est sur Marseille. Mais ça montre aussi qu'il y a une opportunité pour eux et à eux de la saisir. Peut-être que dans trois semaines, on revient ici sur ce plateau et on dit, l'Olympique de Marseille a été décevant. Et Paris a fait le boulot et ce serait logique, mais c'est quand même un gros camouflé de se poser ce genre de questions quand t'es le Paris Saint-Germain et quand t'es supporter du PSG, de se dire que l'Olympique de Marseille est capable de d'incorporer des joueurs qui ont un meilleur rendement avec un meilleur collectif.
Voilà, faire des choix maintenant. Avec un meilleur aussi, coach.
La nouveauté pour Igor Tudor, c'est faire des choix au départ. Hein. Après, parce que là, il a une abondance de biens qu'il n'avait pas il y a encore un mois.
Moi, je trouve que le truc des choix, ça a toujours été le cas depuis l'arrivée de Longoria. Il y a tellement de joueurs qui ont été recrutés. Mmh. Même on réfléchissait sur la profondeur de banc. Même à l'époque, sans Paoli, je m'en rappelais, on se demandait mais est-ce qu'il a une assez grosse profondeur de banc.
Il n'a jamais eu un meilleur effectif.
Un meilleur effectif, mais je pense que c'est dû au travail d'Igor Tudor. Oui. Ça aussi, il faut le mettre en avant. Mais je pense que c'est ce côté profondeur, etc., il a toujours existé du côté de l'OM. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, tu as quand même dégagé des angles sur des joueurs qui ne servaient à rien. Là, aujourd'hui, t'as vraiment tu as vraiment 22 joueurs de qualité. Ouais.
Tu démarres contre Nantes avec quand même Guendouzi sur le banc. Alors, moi, je ne suis pas un grand fan de ce joueur aussi haut sur le terrain, mais tu démarres avec Guendouzi, avec tout ce qu'il représente au sein de l'effectif.
Et t'as Bailly qui est suspendu.
Exactement.
Donc, il faut faire des choix.
Ça va être
Harit qui est blessé,
Klose qui est sur le banc. Attention,
l'effectif, il est à la hauteur de Marseille, hein, bien évidemment. Quand tu compares par rapport à l'année dernière, les solutions sur le banc que tu avais, c'est quand même très différent. Et l'année dernière, faut pas oublier que sur la deuxième partie de saison, tu as des matchs entrecoupés avec la Coupe de France, avec la fameuse Conference League, notamment. Là, tu n'as rien. Donc, t'as quand même. T'as quand même une opportunité.
Bravo Longoria qui est en conférence de presse également aujourd'hui, hein, qui a la question a été posée. Est-ce que vous mettez pas en danger financièrement? Il dit non, on est dans la même situation qu'au 31 décembre 2022. On parle de très gros transfert pour Vitinha. Il a rappelé ce qu'on a déjà dit dans l'after. C'était un transfert lissé sur 4 saisons et demie. Il faut aussi regarder le salaire, qui est pas non plus un des plus gros salaires de Ligue 1.
Ah, le lissage maintenant aujourd'hui dans le football.
Il est dans la deuxième catégorie des salaires.
La Ligue des Champions leur apporte à peu près 25 millions d'euros. Et il y a un autre truc qu'il faut dire et que c'est pas du tout une critique. Il faut que quand on dit ça du côté de l'Olympique de Marseille, des supporters, faut pas qu'ils le prennent mal, mais en fait, ils ont un actionnaire qui comble les trous en fin de saison. Ça aussi, c'est important à préciser. Ouais. C'est pour ça que les passages des NCG se passent plutôt bien. C'est parce qu'il y a des trous en fin de saison et qu'il parvient à les combler. Donc, il y a le bon travail.
Attention au fair play financier, hein, parce que l'UEFA regarde les comptes de Marseille
chose,
aussi.
Bien
hein.
sûr, bien
ils
sûr.
Ils ont déjà été sanctionnés. Hein.
Parce que le fair play financier ne prend pas en compte quand leur propriétaire remet au pot.
Exactement.
Mais c'est quand même important de le préciser que Longoria travaille bien, mais il a quand même une assise financière qui lui permet de faire ce qu'il fait aussi. Oui. Voilà, c'est simple.
Yacine, comment tu imagines le 11 idéal de l'OM dans cette deuxième partie de saison? Parce qu'il y a du choix là.
Ben ouais, il y a du choix, mais franchement, moi j'attends de voir Vitinha. Hein. La question là, c'est de voir Vitinha, c'est vrai. Après voilà, il y a des vidéos, il y a tout, mais voilà, est-ce qu'il va correspondre avec ce 11? Parce qu'on a Alexis Sanchez, ça ressemble un peu au profil d'Alexis. Ça peut faire mal, comme ça peut surprendre, comme ça peut ne pas marcher, quoi. Après, je sais pas.
Vitinha, moi, je connais pas, donc.
On va voir. Voilà, pareil, évidemment, sur les montages vidéo qu'on a vus, c'est spectaculaire.
On a vu que des highlights et en ce moment, mais tout le monde, même toi, Nico, t'aurais pu être spectaculaire sur un highlight.
Que François Sergio était capitaine de Braga également.
Oui, c'est vrai.
On a vu des vidéos quand il est arrivé à Bordeaux.
Oui. Après, c'est quand même.
Non, mais je plaisante. Nico, ça peut le traiter. T'as raison.
Il est traumatisé. Un traumatisme.
Mais d'ailleurs, Braga n'est pas détenu en partie par le PSG.
Si. Par actionnaire, minoritaire, mais tout de même.
Dîner par Antero Henrique. Donc en gros,
c'est Henrique
Marseille, qui a fait le deal, Marseille a donné de l'argent au Qatari. Quoi.
Mais en partie, attention.
Belle alliance.
Ils ne sont pas majoritaires, les Qataris.
Autour de 20%,
c'est 22-23%.
Par contre, Malinovski, on connaissait un peu plus quand même.
Alors vas-y.
Et c'est vrai que pour l'instant,
c'est trop tôt, les gars.
Oui, c'est trop tôt. Mais quand même. Non, c'est trop tôt, mais Malinovski, on en parlait souvent avec Johan Crochet. C'est pour moi un très bon joueur, hein, avec ses qualités. Mais pour moi, c'est beaucoup plus un impact player, un joueur qui rentre, qui sort du banc et qui fait les différences. Il a une grosse qualité de pied, sur coup de pied arrêté. Notamment, il dégaine à une grande vitesse.
Il maintenant, a fait marquer d'ailleurs sur le coup français.
Exactement. Maintenant, moi, Malinovski, ce qui me dérange un petit peu.
Tu le mets pas titulaire.
Non, c'est que dans la création. C'est pas pour moi son domaine de prédilection. C'est pas là où il est plus fort dans les choix de jeu. Souvent, des fois, quand je regardais l'Atalanta, je me disais là il fait le mauvais choix.
Il joue à l'envers.
Là il fait. Mais par contre, il est capable à tout moment de
débloquer une situation.
Voilà, de débloquer une situation, d'allumer la mèche, etc. Donc.
Après, pour être très basique sur ce recrutement, en fait, tu te dis que c'est le remplaçant en nombre de Luis Suarez. Et en fait,
c'est pas le même profil. Là-bas.
Non, c'est pas le même profil, bien évidemment. Mais tu gagnes en qualité. Quand même.
Oui. Après, Malinovski, normalement, qui jouait la Ligue des Champions avec l'Atalanta l'année dernière ou il y a deux ans, où jouait le titre.
Et puis il y a un truc aussi que
arriver à Marseille, ça reste quand même normalement en fort de poids.
On peut préciser aussi par rapport
mais
à Longoria.
Il faut pas oublier
à Longoria les achats et sur ce type d'achat, Malinovski, tu vas le chercher à l'Atalanta quand même. Tu récupères un joueur à 32 millions d'euros du côté de Braga. Il y a aussi un truc, il y a un message qui est envoyé par le président.
On lutte,
c'est de dire qu'aujourd'hui on est là, on est dans la la cour avec vous. On n'est pas des petits. Et ça, même, bon, évidemment, sur le travail, ça se jugera sur le terrain. Mais ne serait-ce que symboliquement par rapport aux supporters de l'Olympique de Marseille, où tu vois des sommes incroyables lancées sur le marché des transferts, que ce soit en France ou à l'étranger, l'OM, aujourd'hui, c'est un club qui est capable de faire la guerre économique, avec évidemment pas Chelsea, oui, mais avec oui, certains oui, clubs intermédiaires. Et ça, c'est important juste pour le message envoyé pour le moyen terme.
Oui, puis c'est aussi la conviction, les arguments pour attirer un joueur à Marseille au Vélodrome. C'est Unai qui l'a dit. Hein. Oui. Amine Harid est venu le voir pendant le Mondial, dans sa chambre. Il lui a dit, viens à Marseille, compte, top évidemment, projet, super entraîneur, tu vas progresser. Ça a aussi achevé de le convaincre certainement. Yacine, je te pose une question. Tu préfères battre le PSG en Coupe de France ou en Ligue 1 ce mois-ci?
C'est la Ligue 1. Après, bon, c'est pas bon pour moi. Je veux dire, maintenant, vu que vraiment c'est le titre et le titre, je vais répondre en Ligue 1. Après, c'est vrai que la Coupe de France, c'est quelque chose aussi. On ne peut pas, oui, pas négliger la Coupe de France. Au contraire, mais.
T'aurais dû dire le premier match, parce que si tu les bats le premier match,
bien, tu les tues.
Et tu vas les gagner le deuxième.
Après, ouais, tu peux dire les deux.
Moi, ce que je disais tout à l'heure, je disais franchement, là, maintenant, il faut voilà, j'espère gagner les deux matchs, qu'on gagne les deux matchs.
Après, on espère quand même, enfin, moi, de mon côté, hein, mais j'espère pour la Ligue 1 et bien évidemment un sprint avec un suspense.
Ah, oui.
Mais j'espère aussi que le Paris Saint-Germain va à un moment donné se réveiller. Parce que continuer à proposer cette bouillie foot et se faire marcher dessus comme on est en train de le prédire contre Marseille, ce serait quand même une immense catastrophe. Si on nous explique que l'Olympique de Marseille va battre deux fois le Paris Saint-Germain à la maison, ce serait quand même très très problématique
anormal,
pour le PSG.
Tu peux dire anormal.
Ah non, mais vraiment.
Ouais. Merci Yacine. Très bonne soirée à toi, tu reviens quand tu veux sur RMC. Tiens, info d'un ancien Marseillais, André Ayou, qui était au Qatar à Al Sadd, a signé à Nottingham Forest, ouais, ce soir. Voilà.
The English Arles Avignon.
Il retrouve la première ligue.
On se fait une mort subite de
tous les clubs. Basidas.
On se fait une mort subite de tous les clubs d'André Ayou, non?
Allez.
Si tu veux, vas-y. Allez-y, les gars.
Marseille.
Très vite.
Swansea. Arles Avignon.
Lorient.
Il a joué avec un club turc, mais je ne sais plus lequel.
Fenerbahçe. Et j'ai plus rien.
Ouais. Ah, Nottingham Forest.
Vous avez dit West Ham.
West Ham.
Il a joué avec son frère, avec Cristal.
Non, il a pas joué avec Cristal.
Swansea, on l'a dit.
Swansea, on l'a dit.
Fenerbahçe,
on l'a dit. Très
bien. Nottingham Forest, Al Sadd.
Ouais.
Marseille, Lorient, vous avez tout dit, les gars.
Arles-Avignon, prêté.
Ouais. Prêté à Arles-Avignon également.
C'est là où il pète.
Précise quand tu dis. Il se blesse, tu veux dire, ou il explose?
Non, il explose.
Ah, il n'a pas le terme.
Il a pété.
C'est un terme qui, voilà.
Attention, Nico.
Qui revêt plusieurs
fois. Attention, Nico, sinon on te fait passer dans
la merde. T'as dit, je te mets en slip, là, t'as eu un peu de mal et tout, faudrait, voilà.
Ouais, Nico, encore un peu, tu passes à la demi-heure suivante.
Voilà.
Allez, les gars, dans un instant.
Nico est en train de péter en ce moment, Nico Jamin, il pète.
Voilà.
Bah, il est en train de péter.
Non, c'est se blesser pour moi.
Ah non.
Oui, mais ça, là, on n'est pas sur un terrain. Varane, va-t-il manquer à l'équipe de France? Le débat à venir dans Génération After. On vous attend nombreux au 32-16-0-0. Entre le Real et Valence et la Juve qui en quart de finale de la Coupe d'Italie reçoit la Lazio 0-0 également après 25 minutes de jeu. À tout de suite sur RMC.
RMC 20h-22h Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After RMC 21h30 avec Oussem Loussaïef, Walid Cherchour et Sofiane Zouaoui. On est ensemble jusqu'à 22h. On parlera de sa nouvelle regrette également dans quelques minutes, qui a contre-attaqué après la remise du pré-rapport de l'audit de la Fédération Française de Football. D'abord les gars, bon, 0-0 toujours entre le Real et Valence en Liga. Pour l'instant, le Real est toujours à 7 points du Barça. 0-0 également en Coupe d'Italie entre la Juve et la Lazio après 27 minutes de jeu. Raphaël Varane arrête donc l'équipe de France à 29 ans, ce qui nous a surpris certains. Qu'est-ce qui a motivé sa décision? Une envie de passer plus de temps en famille, un troisième enfant à venir également, une usure mentale à cause d'un calendrier infernal. Il a pris un coup aussi, psychologique, après la défaite en finale contre l'Argentine en finale du Mondial, bien sûr, plus des problèmes récurrents au genou droit. Quand on lit cette liste-là, on peut comprendre en fait. Et on parle également d'un homme qui a commencé très tôt en équipe de France. Hein.
Plus de 90 sélections.
93 sélections.
19 ans. Très tôt en club aussi, 17 ans à Lens.
Il commence contre la Géorgie à 19 ans, je crois.
En 2012, ouais. On compte ? Il y a plus de 10 ans.
Et après, il y avait eu ce match contre l'Espagne au Stade de France avec les Pogba et Varane, oui, titulaire, 19 ans.
Il a 19 ans en équipe de France. Ouais. Appelez-nous 32-16, êtes-vous surpris? Et cette question surtout plus insidieuse, Raphaël Varane va-t-il manquer à l'équipe de France? Allez, c'est parti, je commence avec toi, Walid. Déjà réaction par rapport à l'annonce hein, de sa retraite. Surtout pas surpris.
L'annonce un peu surprenante quand même. Un peu surprenante parce que.
Vraiment, t'as été surpris?
Oui,
pas totalement en même temps, tu vois.
Vas-y. Oh, d'accord, vas-y. Ma réponse, messieurs.
On laisse parler. Vas-y.
Vraiment, t'as été surpris.
Affirme-toi, prends la parole.
Tu fais jamais. J'essaye.
Tu fais des réponses trop courtes en prison générale. Il faut vraiment que tu t'affirmes maintenant.
J'ai pas assez de charisme, apparemment. Mais voilà, pour revenir sur ce que je disais, c'est que pour moi, j'étais quand même un peu surpris parce que.
Ah bon?
Ouais. Parce que voilà, de par son âge, je pensais qu'il allait au moins aller jusqu'à l'Euro, et surtout que voilà, Varane revient plutôt bien avec Manchester United. Il n'était pas en grande difficulté avant sa blessure. J'ai perdu ma voix.
Ah bon?
Tu me dis quoi? Ça peut dire que tu la récupères. Bon, tout revient là.
Tout ça pour souvenirs. Varane.
C'est fou l'émotion. Okay. Je suis ému. Je dois boire de l'eau.
C'est pas grave.
Bon, je prends le relais pour les laisser boire de l'eau. Moi, la différence de Walid, je suis pas surpris pour tout ce que tu as énuméré. Ça fait un moment qu'il joue en équipe de France, plus de 90 sélections, 93, tu disais, ou 94.
13e joueur le plus capé de l'histoire.
Exactement. Et puis, on le voit depuis qu'il est tout jeune, l'usure physique, l'usure mentale fait. Donc, je suis pas du tout surpris. Je pensais qu'il allait, je m'en doutais qu'il allait l'annoncer il fait partie de cette génération.
T'avais les infos, alors?
Non, mais même s'il est plus jeune que cette génération-là, que Giroud, mais il fait partie de cette génération. Giroud, Lloris, il est arrivé un peu plus tard, mais ils ont gagné ensemble, ils ont enchaîné les sélections ensemble. C'était logique, qu'il lâche la main. Et là, on rebondira sur la deuxième question que tu veux poser, parce que je pense qu'il a aussi constaté qu'il y avait du beau matériel derrière lui, et donc naturellement, humblement et intelligemment, je pense qu'il se dit « Allez, ça y est, j'ai fait le tour, j'ai gagné des trophées, il y a du talent derrière moi, autant les laisser progresser. »
Non, mais
bravo.
Non, mais ton analyse, moi je la partage totalement. Après, ça reste quand même. Il faut y aller.
Il a enchaîné.
Oui, bien sûr. Mais non, mais il faut y aller, prendre sa retraite à 29 ans.
Il a gagné.
Il y a des explications. Il y a des explications à ça, et tes explications sont totalement.
Plausibles.
Mais à 29 ans.
Qu'est-ce qu'il peut faire de plus en équipe de France?
Bah, gagner un euro. Il l'a pas gagné.
Tu penses que.
Il peut pas s'en passer.
Non, mais Oussem, là, t'es dans une forme de logique de pensée. C'est-à-dire, tu te dis, bon, c'est vrai, quand on réagit par rapport à toi, l'usure, les matchs, les blessures, qui commence à s'accumuler. Le truc, c'est que je trouve, moi, au contraire,
ça reste pas commun.
Moi, je trouve ça très surprenant.
Ouais, ça reste
pas commun. Ça très surprenant, parce que même si on prend en compte tout ce qui s'est passé dans sa carrière et le fait d'avoir commencé tôt, on parle d'un joueur qui est pas très loin des 100 sélections. On sait que il y a beaucoup de joueurs qui veulent atteindre ce cap-là. T'as quand même une compétition qui va vite arriver, parce qu'on a eu la Coupe du Monde en hiver, donc t'as une compète qui va vite arriver. Tu peux te dire, allez, je tente de tirer jusque là. C'est un joueur qui a même pas passé encore la trentaine. On a quand même beaucoup d'exemples de joueurs qui tirent au maximum, même sur les derniers mois, qui tirent au maximum sur leur physique et sur leur volonté d'aller de plus en plus loin dans la compète. Tu peux te dire aussi, écoute, moi finalement j'ai pas fini le jeu, parce que ok, j'ai gagné une Coupe du Monde, mais là je peux pas rester sur un échec comme ça en finale au tir au but.
Et puis moi je pensais aussi aux Jeux Olympiques.
Je me disais
peut-être que 2024 Paris. Ça peut être aussi, tu vois, terminer. Parce que Sofiane a raison d'insister. C'est plutôt lucide.
Et intelligent
de sa part, mais on fait des débats toutes les semaines avec des anciens pros qui te disent que l'ego, le fait de marquer l'histoire.
T'as bien vu pendant sa carrière qu'il l'avait pas
bien. Bien évidemment. Mais donc, il faut le dire, il n'y a aucun souci.
C'est très intelligent de sa part. Parce qu'il a constaté qu'il n'avait pas besoin de plus. Il est fatigué.
Sa décision est personnelle et même intime, je la comprends. Je la respecte à 200%. Intelligent, je sais pas.
Si, c'est intelligent de
se dire. Il est encore à la baston avec la succession, ça va.
Non, oui, mais il a encore la baston. Mais lui, quand il se fait
les gens se retirer, parce que derrière il y a une vie incroyable.
Quand il communique, il le dit. Il dit, il est temps aux jeunes de prendre leur place. Je trouve que c'est une forme d'intelligence.
Je pense qu'il faut que vous en... ça reste surprenant dans le monde du football. Aujourd'hui, laisser la place aux copains en disant, bon les gars, franchement, non, pas mécano,
ça c'est un peu une posture,
etc.
Non, c'est une réalité. Non, c'est une réalité. C'est pas une posture. Et enlevez de votre tête son âge, parce que depuis tout à l'heure dans vos arguments, il a pas passé 30 ans. Enlevez-vous ça de votre tête. Il joue depuis qu'il a 17 ans. Physiquement,
qui joue depuis 17 ans.
Physiquement, il a plus que 30 ans. Il a gagné des Ligues des Champions. Il a fait des saisons à 60 matchs.
Sur le côté communication par rapport à la concurrence. Moi, je me souviens pendant la Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de sorties d'infos sur l'intégration des jeunes positifs dans ce groupe-là. Même les plus vieux disaient, c'est incroyable parce qu'ils sont matures. Ils prennent pas la place, ou en tout cas, ils le font de manière beaucoup plus. Alors qu'il y a une époque quand même, il y avait quand même un conflit entre jeunes et anciennes générations. Donc
Moi, je pense qu'il faut pas sous-estimer, et c'est pour ça que je crois que c'est pas une forme de communication. Un mec qui se dit, écoute, là, quand même, sur les dernières compétitions, 2016, j'arrive blessé, même si ça commence à dater. Cette
saison. Il joue pas 2016.
Oui, voilà. Et il joue pas parce qu'il arrive à l'Euro 2016. Ouais, 2018, ok. Mais après, lors de cette Coupe du Monde, j'arrive blessé. Je suis quand même à un point, vous, avec Manchester United, j'ai raté en stade 25 matchs depuis qu'il arrive à Manchester United, ce qui est énorme. Et il y a quand même les petits là derrière. Est-ce que je suis assez frais pour me bastonner avec eux? Ils ont l'air intelligents, ils ont l'air bons et ils vont prendre la place sans que personne ne puisse dire grand chose et je risque de finir ma carrière à traîner la patte comme ça dans un groupe. Donc il y a aussi cette poussée, à mon avis, des jeunes qui est différente du passé, où le mec qui arrive à un âge où il sent qu'il peut plus aller au bout, il se dit peut-être
Mais
ça me surprend.
Non, mais je suis d'accord avec vous, tous vos avis et vos arguments sont bons, mais dans le monde du foot actuel,
ça détonne.
Non, mais ça reste surprenant de ce parce que moi je vous le dis, parce que moi je vais vous le dire, mais moi pour moi Deschamps, si Varane continuait et si Varane continue d'être performant avec Manchester United, autant les performances des nouveaux peuvent être très très bonnes. Je pense que Varane continuera à jouer en équipe de France. Donc lui,
c'est pour ça qu'il
il aurait pu continuer à être dans une réflexion bête et méchante, même s'il en avait pas envie. Je vais aller chercher le plus grand nombre de caps. Mais là où je le salue, il faut le saluer, c'est que il va décider de sa sortie. Plutôt une belle sortie.
Exactement.
Et que contrairement à des légendes qu'on respecte, hein, bien évidemment, des légendes de notre enfance, de notre adolescence, mais des Lilian Thuram, des Marcel Desailly, qui ont été au bout du bout du bout, quitte à être ridicules dans certains matchs. Hein, je me rappelle de la Croatie en 2004, il me semble, des Pays-Bas en 2008 pour Lilian Thuram. Galas, Naïsna, un peu, même si c'était pas.
T'étais en 6e C à l'époque, non, c'est ça?
Qui?
Toi, t'es en 6e C.
J'étais en 6e C, ouais. Merci à Jimmy Brown encore une fois dans le casque. Ça, je la reconnais. Mais voilà, ça, c'est plutôt honorable et il faut le dire. Même si pour moi, ça reste surprenant.
J'accueille Yanis au 32-16.
Ça reste surprenant.
Salut Yanis, et je repose la question surtout pour notre débat. Est-ce que Varane va-t-il manquer à l'équipe de France? Salut Yanis.
Bonsoir.
Salut Yanis.
Bonsoir à tous. Merci déjà de m'accueillir.
Très heureux.
Alors, j'ai écouté un petit peu vos arguments et c'est vrai, je suis d'accord avec vous là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est une belle sortie compte tenu de son palmarès et de ce qu'il a pu faire en équipe de France. Maintenant, moi, il y a deux choses. Je pense sincèrement que, en tout cas à sa place, il y avait quand même, c'était quand même le vice-capitaine. Donc, je pense que c'était lui qui était le mieux placé, depuis l'annonce de la retraite de Lloris pour reprendre le capitaine en équipe de France.
Ouf, oui.
Et à 29 ans, je pense qu'il avait une passation encore devant lui avec la jeunesse qui n'est pas terminée, qui n'est absolument pas terminée. Aujourd'hui, aucune certitude encore sur la défense centrale en équipe de France. Et je pense que Varane aurait pu aller chercher encore l'Euro pour accompagner justement la jeunesse en équipe de France. Autre chose, vous avez aussi évoqué le nombre de matchs qu'il effectue par saison. Depuis son départ du Real, il n'a jamais fait une saison pleine. Donc, des saisons en 60 matchs, je pense que ça ne lui est pas arrivé depuis son départ du Real Madrid. Ensuite...
Oui, mais il est blessé.
Il y a un truc qui est
blessé. Vas-y, Yanis.
Je suis 100% d'accord avec vous. Il est blessé. Pour preuve, il a été blessé longtemps avant la Coupe du Monde et il nous sort quand même une Coupe du Monde. Je pense que personne ne l'attendait à ce niveau-là. Voilà. Et autre chose, on parlait également de la génération qui est arrivée très tôt en équipe de France. Griezmann en fait partie aussi, et je pense qu'il n'est pas, il n'est pas annoncé sur le départ en équipe de France. Donc, je trouve ça vraiment dommage, et j'espère que son départ, en tout cas de l'équipe de France, sa retraite anticipée, ne va pas non plus donner des idées à certains autres joueurs de sa génération. Et c'est dommage qu'il y avait quand même ce noyau qu'on connaissait, donc entre Lloris et Varane, c'était quand même des personnes importantes du vestiaire d'équipe de France et qui ont décidé de prendre leur retraite.
C'est vrai.
Voilà. En même temps, moi personnellement, ça m'interroge quand même un petit peu sur peut-être
dommage que le sélectionneur n'ait pas eu le même raisonnement.
Absolument. Ouais, ça m'interroge quand même de perdre aujourd'hui à la fois Varane, à la fois Lloris, Mandanda également qu'on oublie de citer, mais était quand même quelqu'un d'assez respecté, écouté et important dans le vestiaire, même si évidemment son âge justifie son départ. Donc je trouve ça vraiment dommage de perdre ce noyau-là qui était quand même hyper important en équipe de France.
Yannis, c'est un truc paradoxal dans ce que tu viens de dire, parce que tu veux que Raphaël Varane reste pour faire la transition avec la nouvelle génération jusqu'à l'Euro, et après après, donc, après l'Euro, si, mettons qu'il arrête à 32 ans, 31 ans, qu'on dise, bah, c'est bon, maintenant, on peut installer. Donc, t'as 2 ans pour préparer une charnière centrale de l'Euro à la Coupe du Monde. Ouais. Moi, je pense que ça a été très intelligent de sa part de le faire maintenant. Comme ça, si tu te projettes pour une Coupe du Monde, t'as 4 ans pour préparer une défense centrale avec du matériel, comme tu le disais, et là, je te rejoins, qui est quand même assez performant et qui joue titulaire dans les plus grands clubs européens, je le rappelle.
Autre chose, les gars, est-ce que ça vous émeut, Raphaël Varane, titulaire, champion du monde 2018?
Toi, tu veux parler de son charisme?
De savoir. Non, je vous pose la question. Quand vous... Est-ce qu'il y a une forme de nostalgie, de tristesse quand il annonce sa retraite?
Non. Mais non. Mais c'est pas un mec qui t'a fait rêver.
Non, non, je vous pose la question.
Est-ce que c'est un mec qui t'a fait rêver?
On parle d'Atelier 2018.
Oui, mais est-ce qu'il t'a fait rêver?
J'ai à peu près la même sensation.
Moi, c'est la question que je vous pose, les gars. Voilà, moi, c'est à peu près.
À peu près. Que un peu plus que Lloris.
Peut-être moi, un peu moins que Lloris, d'ailleurs.
Mais tu sais.
On est d'accord.
Non, il faut avoir un Lloris, moi.
Ok. Moi aussi, oui.
Non, parce que. Attends, mais le problème, Nico, c'est qu'on s'en rend compte.
Là, je parle d'humain. Non, mais je parle d'émotion.
Oui, d'accord. Moi, Varane, pour moi, la Coupe du Monde que Varane fait en 2018, elle est extraordinaire.
Oui.
Et la performance, ça restera.
Il bonifie même Umtiti.
Ça restera l'une des grosses performances d'un défenseur central français dans une Coupe du Monde. On en parlera. Moi, je continuerai à en parler, en tout cas, aux gens à l'avenir. Maintenant, le problème, c'est quoi, Nico? C'est qu'on va s'en rendre compte très, très vite. C'est que tous les mecs qui vont arrêter. Ouais. Qui ont joué sous Deschamps, il y en a très très peu qui subjectivement vont nous faire quelque chose.
Peut-être pas.
Non mais on va reconnaître. Non, mais c'est la réalité.
Peut-être que les jeunes, les plus jeunes.
Alors peut-être.
C'est intéressant.
Peut-être. Et après il y aura Mbappé, bien évidemment différent. Mais il y en aura beaucoup. On respectera en disant. Ah, c'est extraordinaire, bravo. C'est
bravo, voilà. Mais il n'y aura pas à l'air Michette.
Voilà, bravo.
Mais quelque par chose contre, contre Deschamps,
ce sera différent des anciennes générations, je pense. Après, peut-être
Par rapport à question d'âge aussi. Moi, j'ai connu 2018. À chaque fois que les mecs partent à la retraite, il y a une émotion. Parce que c'est la première fois aussi. Parce que je sais pas, on avait un lien plus direct.
Mais le style de jeu fait que aussi. Allez, hein,
Yanis, pour le mot de la fin, Yanis.
J'ai deux exemples. Donc, il y a le premier avec Lloris, effectivement, personne n'a plus capé en équipe de France, capitaine, etc. Donc, son départ, il a fait la une des journaux le lendemain, il avait donné une interview, ça a provoqué quelques réactions, et aujourd'hui, il est tombé aux oubliettes. Mais il y a un exemple, et je pense qu'on oublie de parler de quelqu'un, c'est N'Golo Kanté. Pour corroborer les propos de Walid, qui dit qu'effectivement cette génération-là, elle va tomber un peu aux oubliettes après
aux oubliettes, ce serait leur manque de respect.
T'as dit ça. Oui, absolument, non.
Je dis juste que subjectivement, dans l'aspect foot, qu'ils vont nous laisser, on sera pas marqués, des dingues, quoi.
Au même titre que la génération 98, par exemple. Mais N'Golo Kanté, donc qui ne joue plus depuis pratiquement 2 saisons. Il a bénéficié d'une médiatisation incroyable en 2018. Il a gagné le cœur de tous les Français. Et aujourd'hui, plus personne ne parle d'N'Golo Kanté lorsqu'on évoque que ce soit son avenir en club ou en sélection. Donc je pense, et je suis absolument d'accord avec Walid. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. C'est pas une génération qui va marquer, les esprits.
Ça n'a rien à voir avec Zidane, Vieira, Blanc. Ces mecs-là, quand ils arrêtaient l'équipe de France, c'est voilà.
Mais là, on parle de charisme aussi, les gars.
Allez, on n'était pas bien,
Yanis, merci Yanis.
Avec plaisir.
Tu reviens quand tu veux.
Salut Yanis.
Salut sur RMC dans Génération After. Je rappelle que Varane a fait toute sa carrière en bleu sous Deschamps. Voilà.
C'est ça, c'est pour ça que
j'ai un problème avec Varane.
Vraiment, j'aime beaucoup Varane, le défenseur. En plus. J'ai, soit au Real Madrid avec ou en équipe de France, mais voilà, il est affilié à un style, à quelque chose. Voilà,
un problème avec l'homme de Deschamps. Hein.
Oui, c'est pour ça qu'il a un problème avec
Allez, 0-0 entre le Real et Valence après 42 minutes de jeu, 43 minutes de jeu, 0-0 entre la Juve et la Lazio en quart de finale de la Coupe d'Italie. On revient dans un instant. Attention à venir, la vie de Igor Zouaoui, technico-tactique.
T'inquiète pas, j'arrive.
Reste avec nous.
Régis Zouaoui,
Sofiane Saki.
RMC 20h-22h Génération After.
Nicolas Jamin
avec Sofiane Zouaoui, Walid Achachour et Oussem Loussaïef. Reste avec nous à 22h. Gilbert Daniel, coach Courbis, Manu Petit prenant le relais pour un After
ils sont pas là, je les ai pas
singulier, très particulier. Ils sont pas là, c'est normal.
J'ai vu sur Twitter comme quoi il y en avait qui se...
Vas-y,
qui faisait des estimations.
Vas-y.
Estimations. Il essayait de
deviner.
Ouais. Il y avait eu un tweet.
Alors, il y a eu un tweet, à ce qui paraît, ils sont peut-être chez Marco Verratti. C'est pas ça.
Le restaurant de Marco Verratti non plus. Parce qu'il y en a qui attendent devant, là.
C'est la classe, Marco, qui a pris, après tout ce qu'il a pris dans l'after. Il est reçu. Daniel, je t'invite à mon restaurant, fais l'émission sympa.
Oh là là, là, là. Et qui parle avec lui, etc.
Et
qui
offre une pizza. Et à la fin d'année, il fait désolé, je me suis trompé.
Ouais.
Mais ta pizza est mauvaise.
Daniel pourrait dire c'est pas toi le problème, Marco. C'est ceux qui parlent de toi.
Allez les gars, 0-0 toujours entre le Real et Valence, 0-0 entre la Juve et la Lazio. C'est l'heure de la vie de notre intervenant. Tacticien.
Ouais. T'inquiète pas.
Sofiane Zouaoui, jingle Sofiane.
Donnez-lui le diplôme.
Est-ce que pour toi, à ce moment-là, il est ballon d'orisable? Entre guillemets, ballon d'orisable, mais il devient ballon d'orisable. Si on parle d'un objectif ballon d'orisable, il devient ballon d'orisable.
Je vous conseille. Attends, c'est un montage ou c'est. Ouais.
Non, je l'ai dit, mais
ça reste un montage. Mais ouais. C'était quand même assez ramassé, ouais, hein. Ça s'est fait en 1 minute 30.
Avant que Sofiane
d'ailleurs, commence... là, je vais dire système à 3, 50 fois, hein, je vous le dis. Préparez bien.
Avant que Sofiane commence, je vous conseille la photo de l'entraîneur Sofiane Zouaoui à Football Manager. Ouais. Elle est complètement dingue et je pense que.
Elle me ressent plus que je me ressens.
Ouais. Ça a été proposé par le jeu ou c'est toi qui l'as modélisé?
Avec ma tête, quoi.
C'est ouf.
Modélisé.
Football Manager qui
le système à 3 favorise avec les bons matchs de Ligue 1. Sofiane, nous t'écoute.
Tout à fait. Écoute, je me suis fait cette réflexion hier en regardant le match entre Lens et Nice où on avait deux systèmes à 3 opposés. Et puis je me suis fait cette réflexion aussi en me disant, mais quel match Sofiane t'aime le plus en Ligue 1? Et c'est très souvent que ça tombe sur Lens. Et l'Olympique de Marseille notamment, qui joue à 3 derrière. Après, évidemment, faut faire très attention avec ce débat-là, c'est que le dispositif, c'est pas ce qui compte forcément, c'est les intentions. Didier Digard l'a rappelé hier, d'ailleurs en conférence de presse. Mais il y a un truc très naturel dans le système à 3 qui, je trouve, favorise le spectacle et le côté spectaculaire des rencontres. Déjà, quand tu prends le système à 3 sur son organisation sur le terrain, si tu es face à un système à 3, tu es sur un système individuel, c'est-à-dire un contre un sur toutes les zones du terrain pratiquement, mais même face à un système à 4 par exemple, exemple, un 4-3-3, tu te retrouves avec les trois attaquants face aux trois défenseurs, tu te retrouves avec les pistons face aux deux latéraux. En gros, ce système-là favorise les 1 contre 1 et favorise l'effet vague offensive dans une équipe, même si évidemment, il faut que ce soit positif dans l'approche. Il y a un truc aussi dans ce système qui est pour moi très spectaculaire si tu l'utilises bien, c'est que tu as 7 joueurs potentiellement dans le camp adverse, que ce soit pour le pressing ou le contre-pressing. Je trouve que ça favorise aussi le fait de jouer haut, de récupérer le ballon haut. Qu'est-ce qui est bien aussi par rapport à ce système qu'on voit de plus en plus en Ligue 1, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que plus tu jouais avec des attaquants et des milieux de terrain, plus tu étais dangereux. Aujourd'hui, c'est plus la notion de joueur lancé. Dans un système à 3 aujourd'hui, tu as les pistons qui sont capables d'être lancés et tu as également les numéros 8. On l'a vu avec Lens, avec Fofana notamment. Les pistons, on les a avec Klose à l'époque avec Lens, aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille. Mais il y a un truc qui diffère du système à 4 de base, c'est que les défenseurs centraux, et on le voit aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille, notamment avec Gigot et Balerdi, c'est que les mecs, ce sont maintenant des joueurs offensifs, tu les retrouves devant la surface de réparation. Gigot, Balerdi le font à l'Olympique de Marseille. À Lens, tu avais à l'époque Loïc Badé et Gradit qui étaient les joueurs qui gagnaient le plus de ballons, de mètres balles au pied.
Et donc, deux ans, c'est Medina, quoi.
Oui, et aujourd'hui Medina. Et je trouve que ce côté spectaculaire, ce côté un peu fouillis d'apparence, favorise les matchs comme ça, dingues, qu'on peut voir de plus en plus. Et il y a aussi une autre donnée qu'il faut mettre en avant, c'est que là, j'ai parlé des aspects plutôt positifs, mais il y a évidemment des aspects négatifs. Mais là aussi, ça va dans le côté spectaculaire. C'est-à-dire que si tu as un adversaire qui est capable de sortir de ton premier pressing ou contre-pressing, il se retrouve au final avec une attaque où il se retrouve à 3 contre 2, 3 contre 1, ou en tout cas sur des zones individuelles en transition défensive. Donc, je dis pas que le système à 3 c'est forcément mieux que le système à 4 parce que à 4 tu peux aussi avoir des matchs très spectaculaires. Je dis juste dans le côté naturel, disposition des joueurs et puis volonté aussi des coachs qu'on voit du côté de Lens, de Marseille et puis qu'on a vu de base, moi je l'avais découvert notamment avec l'Atalanta et Toloi qui se projetaient devant. Je trouve que c'est un système parfait pour le spectacle, vraiment. Et donc plus on l'utilisera en Ligue 1 et plus on l'utilisera bien en Ligue 1 de manière positive, plus à mon avis on favorisera les belles rencontres.
Qui crée un déséquilibre assumé également. Quelqu'un veut réagir ?
Oui, le déséquilibre aussi il peut être il peut te faire courir à ta perte puisque quand on regarde un peu les points négatifs de l'effectif de Marseille, c'est qu'il y a d'énormes boulevards au sein de leur défense. Alors on peut dire que c'est peut-être à cause des individualités comme certains le disent, des joueurs qui sont pas au niveau, mais c'est aussi parce que c'est un fromage, un bon gruyère avec des trous. Mais ça c'est le risque que tu prends.
Il faut l'assumer, ouais.
C'est ça, c'est assumé. Et c'est moi ça me dérange pas que ce soit assumé. Je suis d'accord sur l'aspect spectacle, mais là où je rejoins pas ton avis, Sofiane, c'est que pour moi le football va au-delà de la combinaison. C'est plutôt, est-ce que tu disais même au début de ton avis, avis, c'est l'animation qui fait ta production. Ça peut être un 4-4-2 qui soit assez productif. Là, hier, par exemple, Rennes nous a remis au goût du jour le 9,5, ce qu'on voit très rarement depuis quelques années, mais c'était un 4-4-2 avec un Désiré Doué en position de 9,5. Et il y a quand même une animation. Je pense que c'est ce que tu demandes. Et c'est vrai que je suis totalement d'accord sur ton analyse tactique. Oui, de jouer à 3 permet de se projeter plus haut, d'occuper une plus grande surface de terrain, notamment chez l'adversaire. Oui, ça te permet d'être à la gorge, à la perte de balles. Mais moi, je suis désolé. Et avec tous les joueurs que j'ai pu discuter qui ont joué contre le Barça de Guardiola, c'était un 4-3-3. Et je peux te dire qu'à la perte de balles, il te mange. Walid Regragui, qui est venu ici il y a quelques jours, il nous disait qu'à la perte de balles, l'harcèlement des Espagnols était incroyable. Et Walid en était moi, parce qu'on en a discuté aussi après l'émission. Il te dit que c'était incroyable parce qu'il savait ce qu'il voulait faire. Et je pense que plus que la combinaison et le choix tactique que tu mets en place, c'est surtout l'animation et ce que tu fais.
Il y a quand même une petite diff entre le 4-3-3 et le système à 3. C'est que dans un système à 3, tu ne peux pas être attentiste. Parce que si tu es attentiste, tu te retrouves avec 7 joueurs ou 5 à 6, 7 joueurs dans ta partie de terrain et tu es dominé. Là où je trouve que ça t'impose, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est aussi caricatural par moment dans la façon de l'animer, où tu te retrouves avec des défenseurs centraux dans la partie adverse, c'est que si c'est comme le concept du requin. Le requin, s'il s'arrête de nager, il meurt. Donc c'est exactement le même concept avec ce système-là. Aujourd'hui, je le trouve très intéressant, et notamment en Ligue 1, parce que si tu es attentiste, tu n'auras rien, donc tu peux pas être dans un entre-deux. Et c'est là qu'il y a une différence, je trouve, quand même, avec un 4-3. Système à 4.
Mais le 4-3, voilà. Ça dépend de tes joueurs aussi. C'est pour ça qu'on en revient toujours à l'animation et aux joueurs.
Bien sûr, bien sûr.
Que ce soit Manchester City, citons les plus grands exemples, ou le Barça, une fois que tu as fait comprendre à tes latéraux, moi je me rappelle de cette fameuse phase de Guardiola lorsqu'il recrute Ederson et qu'il explique à ses joueurs, et ça, Walid, on en a souvent discuté, quand il leur dit, moi je recrute ce joueur-là pour ça, parce qu'il arrive à toucher avec précision les trois de devant à qui il demande de rester devant pour créer tout de suite le surnombre si tu relances court ou si tu relances long. C'est aussi ça le ce que tu proposes. C'est là où l'identité du coach. Et moi, au-delà du dispositif, un homme comme Igor Tudor par exemple, je pense qu'il propose bien plus qu'une composition d'équipe. Quand tu vois l'attitude de Nuno Tavares qui rentre dans l'axe, ces joueurs là et bien moi je suis d'accord avec toute ton analyse tactique, mais je trouve bien au-delà du
finalement
technique.
ils sont très peu en 3-4-3 l'Olympique de Marseille en phase offensive, parce que ça bouge énormément, il y a beaucoup de permutations.
Des zones,
la même chose pour le RC Lens, et c'est intéressant en fait de faire ce débat ce soir, parce que hier j'ai eu une discussion avec Will Steele à la fin du match. Fallait que je la place ce soir. Je suis désolé. Il me parlait de ce changement de système de jeu, parce qu'avec Oscar Garcia, il jouait à 3, notamment derrière, et il est repassé à 4 depuis 2 mois. Et c'est ça qu'en fait, c'est qu'une histoire d'intention.
Exactement.
Parce que lui, il le répète à plusieurs reprises, il dit que pour lui, dans une défense à 3 notamment, il y a beaucoup trop de joueurs spectateurs. Et lui, ce qu'il voulait, ce qu'il demandait à ses joueurs, c'est que tout le monde participe. Eh oui. Et il estimait que dans un système beaucoup plus asymétrique en 4-2-3-1, que beaucoup plus de joueurs étaient concernés par la perte du ballon et par la création quand cette équipe-là avait le ballon. Et quand on regarde bien, mais bien évidemment que Sofiane a raison, que quand le 3-4-3 ou le 3-5-2 est très bien maîtrisé,
c'est
extraordinaire. Mais comme tous les systèmes finalement, parce que le 4-4-2 Rennais l'année dernière, c'est l'équipe de la Ligue 1 sous Genesio, et ça marche très très bien, et l'animation, les intentions sont très très bonnes. Tu prends l'année dernière en Ligue des Champions, 4-3-3 de Liverpool, 4-3-3 de Manchester City, 4-3-3 du Real Madrid, ça a donné des matchs spectaculaires. Donc finalement, si je suis pas sûr moi qu'il y a des exemples, des contre-exemples dans n'importe quel système. Tout dépend des intentions du coach, comment il s'adapte surtout aux qualités
au profil de son effectif.
Et derrière, on peut avoir un rendu grandiose dans beaucoup de systèmes, et pas forcément que dans le 3-5-2.
Voilà pour l'avis de Sofiane. C'était un bon débat, les gars. Tiens, avant de nous quitter, quelques infos concernant Noël Le Graët. Vous le savez, qui est mis en retrait depuis le 11 janvier dernier. Il n'a pas encore réagi directement au pré-rapport de l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche, qui faisait état notamment de comportements problématiques vis-à-vis des femmes, qui peut être qualifié au minimum de sexiste. C'est ce que dit le pré-rapport. Ses avocats contre-attaquent. Ils parlent d'un rapport aux allures de réquisitoire, un procès en légitimité. Il va défendre fermement son honneur. Voilà, il va se battre, Noël Le Graët, qui est encore à la Fédération. Il a encore le droit d'aller dans son bureau, d'observer, à défaut d'être actif en tant que président de la Fédération française de football.
Ça doit être spécial quand même.
très particulier. Ouais, mais bon.
De pouvoir aller dans son bureau avec.
Il est têtu. Hein. Ouais, il veut pas trop lâcher l'affaire pour l'instant. Allez, restez avec nous. La suite de l'after dans un instant. C'est maintenant avec c'est Gilbert, maintenant. Daniel, coach Courbis, Manu Petit. After événement ce soir. Merci les gars.
Surprise.
Merci à toi, Nico.
Bye bye.